102.1.
Soyez pas mêlés, on vous avait averti, mais si vous ne l'étiez pas... Voyons, ça rompe donc bien, ça.
Ça brasse. Ah ouais, Pascal.
Salut, la gang!
Faites du bruit!
Ça roule! 88-971-1021, vous pouvez répondre à ces questions-là. Hey, c'est corsé, ça, comme début d'émission. Vous êtes bien à Boulevard 101. Si vous posez la question, on vient d'y répondre. Et à l'extérieur, ben, c'est une nappe de brouillard qui a pris d'assaut la ville de Québec. Ça va avec... cette ouverture-là. Salut, mon nom est Pascal CV, son nom c'est Mathias Turcotte. C'est pas comme si on s'était pas parlé dernièrement.
Non, bien sûr. On se retrouve, Pascal, pour une dernière semaine, mais à des heures différentes.
Exact. Donc, on passe une dernière semaine ensemble. Mathias Turcotte, tu vas être aussi dans le midi. Tu vas prendre ma place. Tu as fait un putsch, finalement, auprès de Jeff Fortin. Fait que c'est toi qu'on va avoir la chance d'entendre ce midi jusqu'à 14h.
Oui, avec Jeff.
Exact. Puis moi, cette année, ben, je suis dans le matin. Fait que avec Jeff Fortin et Alex Laramé, plus cette... portion-là avec toi, je suis super contente de faire, honnêtement. Elle est un peu différente que celle de la semaine passée parce qu'on va revenir avec les bonnes vieilles habitudes du show de Max. À 11h, Audrey Pinchot de retour dans la programmation en ondes pour l'open mic. On va recevoir Paul Lévesque, qui est spécialiste du comportement humain. On connaît le sujet, manquez pas ça. Vous avez certainement votre mot à dire là-dessus, puis on va avoir besoin de vous. Audrey qui va être aussi aux côtés de Denis Gravel, c'est son grand retour aujourd'hui, ainsi que de Véronique Bergeron. Donc, c'est une grosse journée ici à Boulevard 102.1. On est bien contents de vous l'offrir. Je ne sais pas combien de personnes sont revenues des vacances de la construction. Ce matin, en circulation, je te dirais personne parce que ça roulait partout. On a eu une perte de roue ici et là. On a eu une petite congestion ici et là, mais il n'y avait vraiment rien à signaler, peu importe d'où on arrivait. J'ai l'impression que la ville dort encore.
Mais c'est un peu toujours ça, j'ai l'impression, au retour des vacances de la construction. De un... ça revient tranquillement, pas vite, parce que certaines personnes ont probablement pris leur lundi. Tu prévois d'avance, tu finis tes vacances, tu sais que le lundi va vraiment pas te tenter. Tu te prends ton petit lundi pour avoir une journée de plus pour revenir mentalement puis te dire « je repars mardi ».
Lavage, ménage, ouais, c'est les ça. Lunchs. Les lunchs. Est-ce que c'est recommencé? On est-tu dans la fameuse semaine tampon ou deux là, entre les camps de jour et l'école? Non,
d'après non, moi, c'est de la semaine prochaine. Les camps de jour continuent, ouais, c'est ça. Ce serait plus la semaine prochaine, peut-être l'autre d'après aussi. Mais cette semaine, normalement, les camps de jour, on continue, normalement.
On continue. Et puis moi, ce que j'ai vu aussi dans notre plan, c'est des biens paire de billets pour aller au Capital. Donc, si vous êtes assidu de la programmation cet été, vous le savez, on vous gâte en vue du 20 août prochain pour la soirée Boulevard. Fait qu'on a ça entre nos mains. On va les donner à quelqu'un qui écoute le show, c'est sûr, un petit peu plus tard. D'abord, est-ce qu'il y a de l'actualité, Mathias, à souligner ou c'est encore une journée creuse?
Hey, aujourd'hui, je pense que c'est une des journées les plus creuses que... Non, mais pour de vrai, en
quand
termes d'actualité...
Quand on pense avoir vu
là, c'est ça. C'est assez tranquille, mais il y a quand même des grosses nouvelles. Tout d'abord, les agents de bord de WestJet qui ont conclu une entente de principe ce matin avec la compagnie aérienne. C'est tombé au cours des dernières heures. Ça met fin à la grève qui avait été commencée hier. Donc, finalement, on n'aura pas eu une grève de longue durée. Donc, on va pouvoir reprendre les activités tranquillement, pas vite, après avoir annulé plusieurs centaines de vols. Des agents de bord qui devront se prononcer à savoir est-ce qu'ils vont accepter ou refuser l'entente de principe. Plus tôt ce matin, Marc Rangé expliquait que même s'ils refusent l'entente, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils repartent en grève. Ça va dépendre s'il y a une clause ou pas dans le contrat qui stipule justement... il y a certaines clauses dans les contrats comme ça qui peuvent stipuler que c'est un arbitre qui embarque par-dessus puis qu'il n'y a pas nécessairement de retour en grève pour justement trouver une nouvelle entente. Donc, on va suivre ça de près pour vous.
Oui, il était en entrevue ce matin, Marc Rangé. On peut l'entendre, c'est un spécialiste des affaires syndicales, là. On peut l'entendre sur la façon dont il voit les choses. Par rapport au conflit de travail, on dit que les agents de bord sont plus compensés maintenant.
Il y a de plus en plus de retard. Il y a eu les périodes de forte inflation aussi qui ont exercé des pressions, ce qui fait en sorte que les agents de bord avaient l'impression qu'ils n'étaient plus justement compensés avec ce système-là. Là, avec l'entente de principe, on verra la suite des choses, mais il semble y avoir un modèle intéressant où on donne... Air Canada, c'était une heure supplémentaire au sol qui est payée à 60 % en 2026, qui va être payée à 70 % une forme de reconnaissance. Mais là, chez WestJet, on semble vraiment y être allé sur une prime sur toutes les heures.
Puis il parlait aussi du fédéral qui devrait mettre des règles plus claires là, contre les compagnies aériennes parce qu'il a l'impression que c'est elles qui ont le gros bout du bâton puis peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec les employés. T'sais, en fin de semaine, il n'y avait personne pour répondre aux besoins là, des consommateurs. WestJet avait même aucune personne dans leur bureau dans les aéroports.
Fait que moi, je pense qu'il y a quand même des leçons à tirer. C'est au fédéral d'imposer des critères parce que de toute façon, ces quelques joueurs-là vont tous être sur un même pied d'égalité à partir du moment que tu fais des règles. Mm-hmm. Mais là, actuellement, là, c'est toujours le passager qui paye le prix, qui arrive à l'aéroport puis qui n'est pas capable d'avoir du service, pas capable d'avoir de réponse. En 2026, il n'y a aucune excuse.
C'est l'heure des bilans avec cette fin de vacances à construction-là. Tout d'abord, sur les routes du Québec, on parle de 18 personnes qui ont perdu la vie dans 15 collisions à travers la province. Donc, un bilan qui est moins élevé que l'année dernière, mais qui reste quand même élevé avec une personne de plus, au-dessus d'une personne par jour durant les vacances à construction. Également, 9 noyades qui sont survenues au Québec durant les vacances de la construction. Donc, plusieurs vies qui se sont perdues. Et je termine avec Donald Trump qui aurait recommencé à négocier avec l'Iran. Ce qu'on nous explique, c'est que Donald Trump avait prévu attaquer l'Iran cette nuit. Finalement, on a décidé de ne pas le faire pour relancer les négociations. De fait même, le cours du pétrole a chuté au cours des dernières heures. Le baril de pétrole qui a baissé à nouveau d'environ 5 %. Mais on sait, la situation est très tendue, puis ça change de jour en jour. Fait qu'on pourrait voir Donald Trump décider finalement demain de rebombarder l'Iran puis que le pétrole remonte. On va encore une fois suivre ça de près.
Mais il a l'air à nous en inventer, là, puis il a perdu le contrôle. C'est un peu le constat que faisait Luc Laliberté ce matin, chroniqueur en politique américaine. On aura des clips à vous présenter plus tard, mais c'est une perte de contrôle et on essaie de gérer le narratif, du moins pour les électeurs, mais on n'est plus capable d'avoir un impact sur le narratif à l'international et avec les protagonistes, ceux qui sont dans le conflit. Quand tu es rendu à savoir que Téhéran est en train de faire des pourparlers puis d'avancer la situation avec d'autres personnes que les États-Unis, quand ceux qui sont impliqués directement, c'est cette gang-là de Téhéran avec la gang des États-Unis plus la gang d'Israël. Je vais le dire comme ça parce que des fois, ça prend un peu plus d'expansion, mais quand tu es rendu évacué des négociations, puis quand tu as aussi eu dans les négociations précédentes des avis comme quoi maintenant on pourrait imposer un tarif pour passer sur le canal, puis de demander de l'argent à tous et chacun, ça pourrait être le nouveau barème du commerce à l'international dans le canal. On a un gros, gros problème. Ça va créer des coûts astronomiques pour bien des entreprises. Ça va faire monter le prix de l'essence. Puis Donald Trump va avoir de la misère à revenir là-dessus parce que comment ça fonctionne? Mais Téhéran a énormément, a énormément de latitude dans son émotion. Les citoyens sont avisés que ce sera des années difficiles. Puis de la façon dont la politique est faite à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment le gros bout du bâton.
Ah, ils sont contrôlés.
Ben oui, tu arrives aux États-Unis, puis Donald Trump dirait « Vous allez souffrir pendant des années », il ne serait pas élu. Là. Ça serait très compliqué de faire avaler ça aux Américains. On veut des résultats ici et maintenant. Ils sont résilients du côté de Téhéran. Au Moyen-Orient, là, ils vont se battre jusqu'à la fin pour avoir leur dû. Puis Donald Trump a une plus grosse armée, a beaucoup plus de liquidités, a beaucoup plus de missiles et d'armements. Mais il ne peut pas l'utiliser jusqu'à temps qu'il souhaite mettre ça de son côté, ce conflit-là, parce que les Américains ne vont pas suivre. Quand tu es rendu avec des bottes sur les sols, les gens décrochent. Là. L'armée, pour eux, les soldats, c'est hyper important. Si tu es rendu dans un conflit où tu déploies des soldats, ils sont mis à risque, tu ne gagnes même pas là. Fait que la seule façon que Donald Trump avait de négocier, la façon dont il le faisait avec Téhéran, c'est d'amener son armement, d'amener ses soldats. Mais ça ne passe pas dans son pays. Fait que ça divise. Puis après ça, il n'y a pas la résilience non plus que Téhéran a avec son peuple qui, bon, permet de faire ce qu'il souhaite et la manière dont il souhaite. Et donc, les impacts sont dans la société. Fait qu'on est un peu dans ce conflit-là. Donald Trump sera évacué, mais les dommages collatéraux seront énormes.
Et au final, peu importe ce que les États-Unis veulent faire, ça reste que le détroit d'Hormuz n'est pas sur leur territoire. C'est sur le bord de l'Iran. Donc, ouais. Automatiquement, l'Iran a un contrôle beaucoup plus fort que peu importe ce que les États-Unis pourraient avoir. Puis ce qu'on voit actuellement, c'est que ça va tendre vers un paiement sur le long terme parce que l'Iran est sur le bord, selon les informations qu'on a, de conclure un accord avec l'Oman, qui est l'autre pays qui contrôle ce détroit-là.
C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a même plus les États-Unis dans les pourparlers.
Ben, c'est ça. Si l'Iran et l'Oman réussissent à conclure une entente ensemble, sans les États-Unis, ben, je veux dire, les deux pays qui ont le contrôle sur ce détroit-là vont travailler ensemble et par le fait même, ça va être beaucoup plus facile de mettre un paiement en place dans cet espace commercial-là.
Et tout le monde va en souffrir. Donald Trump semblait dire qu'il allait avoir des négociations aujourd'hui avec l'Iran, mais plusieurs disent que pas du tout. C'est même pas prévu à l'horaire. Donc, le baril de pétrole qui avait chuté en termes de prix dans les dernières heures après cette déclaration-là de Donald Trump, mais il va remonter dans les prochaines heures. Ça, croyez-le, croyez-le pas. Ça risque pas d'être aussi facile que ça pour Donald Trump. Luc, la liberté, on va l'entendre plus tard, mais dit, on est rendu à un point de semi-non-retour. On a perdu le contrôle.
Le point de Max. Le point de Max. Boulevard 102.1. 100% parlé tout l'été.
Et pendant qu'on est dans son émission, ben on va aller le rejoindre. Max Larouche, salut.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. C'est une première de ton émission dans cette nouvelle saison-là. Mais t'es pas là, t'es du côté de Montréal.
Ouais, ben oui, c'était Oshaga en fin de semaine. Puis en fait, j'étais en semaine de vacances carrément. Là, dans la prochaine heure à peu près, je prends la route de Val-d'Or. Mais je me suis dit, ça peut pas être la première de la saison du Point de Max. Je fasse pas une petite apparition. Fait que je vous surveille. Puis je fais mon apparition surprise aussi.
On entend ta voix, t'as eu du fun. Là. Puis en plus, je me le suis fait confirmer par le patron ici qui t'a croisé à Oshaga. Il paraît que tu courais toutes les scènes parce que c'est différent un peu du Festival d'été de Québec. Comment c'est fait, là?
Ouais, ben c'est que à la base t'as comme 3 sets de scènes que t'as chaque set de scènes ou du moins les 2 plus importants ont 2 scènes chaque, un peu comme à George V où ça arrête jamais la musique. T'as un show d'un bar qui se finit, l'autre commence tout de suite. Mais les 2 sets de scènes, comme je les appelle, qui sont les plus éloignés, c'est quand même un petit bout de marche. Puis notamment samedi soir, il y avait en même temps Turnstile et Somber. Puis moi, je voulais vraiment voir les 2, mais les 2 sont vraiment en même temps. Puis ce soir-là, j'ai vraiment littéralement piqué une course. J'ai checké un bout de Somber. Je suis parti à courir, je suis allé voir Turnstile une couple de tours, puis je suis revenu pour la fin de Somber. Les 2 en courant, j'étais essoufflé, j'étais tout trempé. Mais c'est ça, à Oshaga, t'as pas le choix de faire ça. J'ai quand même été chanceux, là. J'ai pas eu beaucoup de décisions déchirantes à prendre à part justement ce soir-là, Somber, Turnstile. Mais généralement, quel beau festival, c'est toujours une de mes fins de semaine préférées de l'année.
Si t'as un coup de cœur et une découverte à nous donner, Max, ce serait quoi?
Coup de cœur, j'avais hâte de le voir, comme je vous disais, mais Somber, rater le pas à Fono. Pour vrai, le gars est une superstar. Puis tu sais, oui, il y a ses grosses tunes qui jouent à radio, puis ça, c'est une chose. Puis, mais en show, le gars a vraiment un charisme qui a aucun bon sens. Fait que Somber à Fono, mettez ça à votre calendrier. Là,
c'est le 11 septembre à 21h pour Fono et Somber.
Le gars est vraiment une bête de scène. Je pense que j'ai pas le choix de nommer Zara Larsson, qui est une, tu sais, qui est zéro de mon genre. C'est une fille qui fait de la pop électro, genre. Mais contrairement à Tate McRae la veille, Tate McRae, superstar international qui a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à Oshaga.
Ben, était nulle part autre que je voyais là, proche de chez nous, soit dans un genre de Québec agrandi. C'était vraiment juste à Oshaga, fait que les gens ont voyagé pour aller la voir.
Puis tu sais, Tate McRae, c'est un show de danse, en tout respect. Là, c'est, pis,
mais je suis surprise de ça. Tout le monde disait que c'était une fille qui performait comme une bête de scène, mais là, tu dis « ouais, mais pas vocalement ».
Ben c'est ça l'affaire. Oui, c'est une bête de scène, mais tu sais, tu vas pas là pour le vocal. Puis j'ai exagéré, là, j'ai mis des stories Instagram pour baver un peu ses grandes fans, puis j'ai reçu quasiment des menaces de mort. Ah. Mais tu sais, je disais, elle chante pas pour vrai, c'est pas vrai. Elle chante par-dessus ses tracks, puis tu l'entends que des fois, elle chante pour vrai, mais c'est juste que c'est un choix qu'elle a fait de concentrer son show sur un show, tu sais, qui est grandiose au niveau de la danse. Fait que c'est juste un choix artistique rendu là. Ça me ramène à Zara Larsson. Ça, c'est une vocaliste, puis il est arrivé full band hier à Oshaga. La fille a un charme fou, quelques gros hits, mais je connaissais pas une majorité des tunes. J'ai quand même eu énormément de fun à son show.
Ça, ça a tourné quand même beaucoup, là, mais comme tu le dis, on est dans la pop.
Oui, vraiment. C'est de la grosse pop, mais en show. C'est le genre de show que j'aurais pu détester. Finalement, c'est dans mon top de la fin de semaine. But I couldn't get enough.
Je veux qu'on parle de l'angine de poitrine qui a fait apparition avant d'être à Québec hier du côté de ton festival Oshiaga auquel tu as assisté en fin de semaine. Comment ça a été le mix de la populace d'Oshiaga avec angine de poitrine? Il me semble que c'était dans une soirée pop justement qu'on leur a permis de performer. Est-ce que les gens trippaient sur le phénomène ou ils ont décroché un peu?
C'était particulier, mais ça arrive souvent à Oshiaga, c'est des mélanges de genres qui ont aucun bon sens. Puis là, tu sais, c'est ça, samedi, tu avais toutes généralement les jeunes femmes qui attendaient pour Tate McRae. Là, c'est la même scène, un genre de 3 heures avant, t'as en gym de poitrine qui arrive. Il y avait quand même de l'ambiance. Il y avait des petits moche-pits ici et là. Les gens étaient curieux, mais tu sais, moi, je te dirais que personnellement, ça a été un moment où je me suis éloigné un peu de la scène, aller manger une petite poutine, puis jaser avec des amis avec ça en musique de fond, puis tu te dis, tu sais, c'est le fun. Est-ce qu'une heure, c'est un peu long dans les circonstances? Peut-être.
C'est ça, c'est plus un show instrumental. Fait que toi, t'en as profité pour faire tes autres affaires, te disant, hey, je l'entends ce que j'ai besoin de voir, tiens.
Non, c'est ça. Puis surtout que j'avais déjà vu en jeune, il y a une couple de semaines, du côté de Trois-Rivières. Fait que, tu sais, le trip, je l'avais déjà eu. J'étais quand même content. Puis je pense, tu sais, pour vrai, c'est un bon coup de chez Aga, c'est d'annoncer ça la journée même. Ça fait un bon coup marketing. Puis je pense qu'il y a beaucoup de curieux qui étaient contents. Puis t'as du monde qui s'en foutait, puis qui disait que c'était n'importe quoi, puis que c'était assez ridicule, puis que c'est des conneries, puis que c'est deux épais. Puis bon, t'en as qui détestent angine de poitrine viscéralement pour je ne sais quelle raison, mais je pense que généralement, c'est une belle surprise.
Et quand Cheyenne Atwain aime angine de poitrine, je pense qu'il faut que tu enlèves une bûche, là.
Non, c'est ça. Fait que non, puis ça reste deux gars locaux, tu sais, deux Québécois du lac Saint-Jean qui réussissent à l'international. Fait que de les amener dans un festival comme ça, puis de leur donner cette visibilité-là ici au Québec, je pense que c'est plus que mérité.
Les gens ont trippé, en tout cas, hier au festival parce que t'avais angine de poitrine aussi qui performait, puis ils l'attendaient, là, même si la pluie a fait en sorte qu'on a fait un petit changement dans la programmation. Là, on a mis les shows plus tard pour laisser passer l'orage. Les gens se sont présentés. Là.
Ben oui.
Puis si je te demandais de choisir, Max, puis tu vas peut-être pas te faire d'amis à cause de moi, mais l'édition 2026 du FEC ou l'édition 2026 d'Oshiaga?
Mais ça me fait toujours rire, ça, ceux qui disent « Ouais, le Oshiaga, c'est mieux que le FEC ou le FEC, c'est mieux qu'Oshiaga. » C'est deux festivals qui sont tellement différents. À la base, t'as un festival qui est sur 11 soirs, fait que t'as à booker 11 grosses têtes d'affiches. T'as le festival qui est sur une fin de semaine où t'as à booker 3 grosses têtes d'affiches. Fait que c'est sûr que le festival qui en a juste 3 à booker des grosses têtes d'affiches, ben, peut-être se permettre une Tate McRae plus qu'un FEC. T'as aussi le timing là-dedans. Le FEC a un timing, je crois, un petit peu plus compliqué, alors que pour Oshiaga, ben, t'as Lollapalooza, qui est un immense festival à Chicago. Tu sais, Chicago, c'est, bon, j'allais dire, c'est à côté, on se comprend. Mais souvent, tu vas te partager un peu les mêmes gros noms que Lollapalooza. Le FEC, c'est, bon, t'as le Blues Fest à Ottawa, mais si on s'entend, c'est loin d'être la même ampleur que Lollapalooza à Chicago. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, je dis que le FEC, c'est mon festival préféré, puis qu'Oshiaga, c'est ma fin de semaine préférée de l'année. C'est de même que je m'en sors. Une belle réponse de politicien.
Ben, puis en plus, c'est sincère. Fait qu'on aime ça. Mais c'est pas fini pour les festivals. On avait le festival hier. On a fini ça avec The Offspring. Toujours une performance hors pair. Les gens ont trippé. Cigale s'en vient en fin de semaine avec Benny Benassi, DJ Champion. Te Crie aussi qui sera là. Toujours un festival vraiment le fun. Je te parle pas des prévisions météorologiques pour l'instant parce que ça a toujours le temps de changer. Puis je veux pas faire peur à personne. Et puis, tu l'as dit, tu as Phono qui s'en vient aussi en septembre. Et tu as mis ta griffe, Maxime Larouche approuve sur Somber. C'est à ne pas manquer le 11 septembre prochain, un vendredi du côté de Phono, c'est ça?
Exactement. Fait que, puis en attendant, là, tu parlais des festivals en région de Québec. Moi, mon mois d'août, il se passe beaucoup à Montréal pour ce qui est des fins de semaine. Bon, là, je vais être à Cigale pour celle qui s'en vient après mon petit voyage à Val-d'Or. Mais après ça, je reviens à Montréal pour l'Assaut. Puis surtout, ça, c'est le festival que j'attends le plus de l'été. Le grand retour du Vans Warped Tour à Montréal. Ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'auditeur de Boulevard 101 au pied carré. Le retour du Vans Warped Tour que je pensais jamais vivre de ma vie. Fait que ça, déjà, Oshiaga vient de se finir. J'ai hâte à Cigale, j'ai hâte à l'Assaut. Mais le Vans Warped Tour, je l'ai encerclé au calendrier pas mal plus que les autres.
Jeff aussi est prêt, il en parlait déjà ce matin.
Bon, ben on va se croiser là toute la gang.
Est-ce que ton genou va toffer la run, Max?
Hey, c'est drôle que tu dises ça. À matin, j'ai mal au genou, là. C'est quelque chose. Puis là, en plus, dans le coup, parce que hier j'ai laissé faire Lord, qui était la grosse tête d'affiche, puis je suis resté du côté des autres scènes où il y avait Subtronics, qui est du gros dubstep, puis Major Lazer, qui est de l'électronique.
C'est bon,
aussi.
Ça, ouais.
Fait que hier, j'ai headbangé. Fait que là, j'ai le cou raqué à matin.
Puis c'est parfait. T'as 8 heures de route à faire. Ça va être le fun, là.
Exactement. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. Puis je vais me reposer dans la belle ville de Val-d'Or. Je prendrai une photo en avant du Canadian Tire où on se mange le cul.
Bye, Max.
Hey, salut, là.
Merci d'avoir fini sur de l'actualité non demandée. Hey, on a hâte de te revoir aussi en nombre. Ben oui. Pose-toi bien, parce que clairement, t'en as besoin, là.
Bye bye.
Aïe aïe. Ouais, ça c'était, écoute, digne pour aller en pause.
Cet été, boule l'été.
Hey, je suis désolée, j'arrive pas à entrer en onde avec ce bed-là sans rire. Wouah! Tu sais, j'imagine juste ceux qui ont fêté dans les festivals cette année, puis là, hey. On arrive, il est 10h27, puis c'est trash. Salut tout le monde, vous êtes au bon poste à Boulevard 102.1. Permettez-nous de rire avec vous, ça réveille, on est là. On a besoin de ça avec la température, par exemple. C'est très nuageux en ce moment. Je pense qu'il pleut dans certains secteurs. Nous, on a l'air d'avoir de la bruine fine.
Ah, bien, il y a l'air d'avoir un peu de pluie aussi. Là.
Oui, oui, je trouve que ça a l'air de ça dans la fenêtre qu'on a ici à Le Bourgneuf. Ça veut dire que c'est pas tout le temps partout. 40 % de possibilité d'averse sur le territoire et ou d'orage. C'est ça ce qu'on a aujourd'hui. 22 degrés comme maximum. Il faut prendre la petite veste. 21, c'est ce qu'on a actuellement. Puis oui, ce soir et cette nuit, c'est 14. Toujours des averses. Toujours un orage aussi prévu au radar. Mais demain, mardi, mercredi et jeudi, c'est du soleil bord en bord jusqu'à 25 degrés pour demain. Et ensuite, on embarque dans des températures jusqu'à 28. Puis les nuits seront fraîches. Ça va vraiment faire du bien. On dirait que l'été est trop court. On est déjà rendu au mois d'août. Je ne sais pas si vous avez vu votre mois de juillet passer, là, mais moi, 0-0-0.
Hey, l'automne arrive dans pas si longtemps que ça. Non, mais là, non. Faut...
Bon, ça, c'était mon collègue Mathias. Vous allez pouvoir l'entendre sur l'heure du dîner. Hey, qui est là, 88-971-101, parce que Mathias, malheureusement, dans ce genre d'intervention-là, parce que pour le reste, je suis super contente d'être avec lui, est avec nous jusqu'à 14, parce que tu vas faire le show du midi avec Jeff.
Oui.
Puis, on jasait quelque chose. Je vous reviens là-dessus juste avant. Quelque chose aussi annoncé dans le monde du hockey. Tu te dis, c'est pas une grosse signature, mais c'en est une pour le Canadien.
Oui, en fait, c'est le Canadien qui a annoncé la signature à deux volets de Maximilian Sauber, un défenseur de 6 pieds 3, un Polonais, qui évoluait du côté du club de l'ancien club des Coyotes de l'Arizona, mais vous comprendrez que maintenant, c'est le Mammouth de l'Utah. Donc, évoluait du côté de ce club là des Tucson Roadrunners. 27 points en 65 games l'an dernier dans la Ligue américaine. Un gros défenseur gaucher de 6 pieds 3. Donc, on vient encore une fois se grossir puis se donner des options du côté du Canadien si jamais on veut bouger un peu dans notre ligne bleue. Mais ça va surtout être un défenseur du côté de la Ligue américaine avec le Rocket.
On vient de finir avec Max au téléphone parce qu'il était du côté de Chiaga. Vous êtes dans le point de Max. Vous allez retrouver dès la semaine prochaine. Nous, on fait la semaine avec vous. Puis, on jasait de musique, justement, à cause des festivals. Mais on jasait aussi de la vieille musique. On se demandait si ça, t'invites ça dans un festival, la bottine souriante. C'est eux-mêmes disent que c'est des chansons du jour de l'an.
Ça fait très cabane à sucre.
Ça fait cabane à sucre, ça fait tant des fêtes, ça fait swing la bacaise dans le fond de la boîte à bois avec des instruments dans le temps, toute la famille dans un appartement trop petit. Mais ça me rappelle que j'avais visité une résidence pour personnes aînées il y a quelques années, puis je leur avais demandé qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre vie, c'était quoi les meilleurs moments, puis ça sortait. Puis là, je veux pas tout donner à bottine souriante, mais en gros, c'était le fait de jouer de la musique tout le monde ensemble, qu'à peu près tout le monde dans la famille jouait d'un instrument. Puis là, si j'y vais à main levée, là, 88-971-1021, est-ce que réellement quelqu'un dans votre famille joue d'un instrument? J'ai l'impression que ça s'est perdu puis ça se perd. Puis là, je parle pas de la petite flûte, bien, vous pouvez nous le dire, mais de la petite flûte au primaire que tout le monde a essayé de jouer puis finalement, ça a passé dans le beurre, là, parce qu'on était tous pas très bons. Là.
Mais dans le temps, de ce que je comprends, t'avais beaucoup de familles qui se réunissaient puis cette musique-là, c'était pas juste genre dans des haut-parleurs, c'était eux autres qui faisaient eux-mêmes la musique en famille.
C'est ça, les personnes âgées disaient que c'était leur plus beau moment, là, que tout le monde jouait de la musique, que le temps s'arrêtait, mais c'était à l'année. C'était pas juste dans le temps des fêtes.
Ah ouais, OK.
Crime, ça m'a rappelé que je suis tombée sur le compte Instagram d'un gars, OK? Si la tendance musicale de l'année, c'était pas les studios de Los Angeles puis leur pop pis ci pis ça qui sortait, mais peut-être le patrimoine de nos campagnes. Parce que ce gars-là, Xavier Saint-Aubin-Pelletier, il en fait soigner une coupe. Le gars, il a 25 ans, il a 30 000 abonnés, des spectacles de prévus, il swing pas à peu près, puis il m'a parlé là, de sa raison d'aimer le traditionnel récemment. Lanaudière, à l'année longue, ce serait un endroit où la musique traditionnelle joue, puis pas juste à Noël, là, à longueur d'année, puis tout le monde triple là-dessus. J'y ai posé la question. Pourquoi la musique traditionnelle récemment au téléphone? On va l'entendre, ce qu'il avait à me répondre, Xavier Saint-Aubin-Pelletier, un gars de 25 ans.
Ça recule à quand j'étais tout petit. J'ai de la famille qui baignait là-dedans, du côté de Saint-Côme, un village en haut de la Naudière. Puis c'est vraiment... c'est partout là-bas, là, tu sais. Je sais que pour les gens sur les réseaux, il y a un renouveau du tram, mais moi, c'est comme un petit lundi, là.
Dans quel monde on vivait? Là? Lanaudière a l'air d'être la capitale par excellence de la musique traditionnelle. T'en as un des gars de la bottine souriante qui vient de là. Mais après tout, c'est-tu les seuls qui jouent de la musique traditionnelle en l'année? Est-ce que vous avez, vous, dans votre région, quelque chose du genre? Moi, dans ma tête, c'est vraiment associé au temps des fêtes.
Eh bien, c'est particulier en plein milieu du mois de juillet. Mettons, je verrais pas la bottine souriante jouer dans un centre commercial ou n'importe où.
Sur son Instagram, il s'appelle le Père Taubin. T-O-B-I-N.
En plus, le père, le gars, il a 25 ans, oui? Il s'appelle le Père Taubin.
Il a un look mat, on dirait de cow-boy, là, t'sais, il y en a une couple qui vont le trouver cute, là. Il a 25 ans, puis lui, il fait juste de la musique traditionnelle. Puis quand j'y ai dit, mais ça, c'est pas associé au temps des fêtes, ça, au jour de l'an, il s'est presque fâché. Si la clip jouait, on serait avancé, mais... On a un bug dans l'ordinateur en ce moment.
Il adore fâché.
J'ai ça à entendre ça, puis c'est une des raisons pourquoi que je les mets sur les réseaux. Je veux plus que le monde dise ça. Tu sais, on a une belle identité culturelle et le trad en fait partie. Puis je veux que le monde arrête de dire « Ah, oh, c'est rien pour Noël ». Non, non. On est ce qu'on est, on fait ce qu'on fait, puis j'écoute ça en juillet dans mon auto, les fenêtres baissées, sans gêne et fier.
T'as vu le profil du gars, là,
ben
tu viens d'aller voir?
Ben, il y a beaucoup de vidéos de lui, justement, qui fait des spectacles en plein été. Là, on le voit, il fait beau dehors. Pis...
En ce moment, il y en a. Il dit, moi, j'écoute ça, les fenêtres baissées, en plein mois de juillet, le bras sorti de mon... Je l'imagine en pick-up, là, quand tu vois le look un peu. Le gars est en jeans, avec une grosse moustache. Il a l'air de faire six pieds queue. Et les gens se retournent vraiment vers lui. Ça s'en vient une sensation sur les réseaux sociaux. Et quand il me parlait de la façon dont tu faisais de la musique, il disait, ben moi, je m'en vais dans les archives, je sors des vieux textes, puis là, on se met à jammer, puis on fait un son en accord avec ça. Il amène plein de générations à triper dans ses shows. Les jeunes commencent à embarquer, puis pas à peu près. Puis lui, il le dit, là, on a perdu quelque chose au Québec. Nous, dans Lanaudière, on a souhaité le garder. Si vous, vous le gardez pas, c'est votre problème.
Des veillées comme ça, on n'en voit plus, là, des cuisines, des salons qui se remplissent pour la famille, des amis. Des moments comme ça, on a perdu ça. Et comme que je disais tantôt, moi, depuis que j'ai 14-15 ans à peu près, je remplis la cuisine, le salon de chez mes parents. Prochainement, ça va être ma cuisine dans pas long, mais on remplit la cuisine d'amis qu'on aime, ça chante, ça festoie toute la soirée, toute la nuit, puis même des fois le matin. Mais des moments comme ça, on a perdu ça, un peu de simplicité, de spontanéité, je pense.
Ben moi, j'ai pas vraiment connu ça. Même dans ma famille, j'ai pas nécessairement une famille de musiciens. Des journées de même ou des soirées de même où qu'on se rassemble et qu'on fait de la musique. Moi, j'ai aucunement connu ça.
T'as pas d'instrument là, dans ta
non,
famille.
Pas du tout.
Y a des gens, on a posé la question au 88-971-1021. En avez-vous musiciens dans la famille? Puis il y a très peu de textos qui disent oui, nous, on en a. Certains disent, à part la guitare, ça s'arrête pas mal là de notre côté. Guitare, piano, je joue de la bamba au violon. La bamba au violon. Ça, c'est drôle. Ma sœur joue du saxophone, du piano, mais je pense que Marianne fait partie de ces familles-là où ça a continué, là, mais ils sont pas énormes. Je suis de l'Abitibi, je suis une femme de 32. Moi, mon père, mon grand-père, on joue de l'accordéon. Ça, c'est rare, là. La fille, elle a 32, elle joue de l'accordéon. Son grand-père fait et organise un festival de musique tous les étés. C'est plein de monde. La Nodière, c'est réputé pour être un château fort souverainiste.
Ça peut être un lien.
Une corrélation avec les idées politiques puis le patrimoine.
Mais puis c'est pas juste de jouer de la musique parce que, mettons, je reprends mon exemple. Ma mère a joué du piano, j'ai joué de la guitare pendant bien des années. Même chose pour mes frères. Mais on n'a jamais eu le réflexe de se rassembler puis de dire, OK, on va jouer, que ce soit de la musique traditionnelle ou tout autre type de musique ensemble. Mais de voir un jeune qui tripe de même puis qui est capable de rassembler du monde...
D'autres jeunes aussi, là.
Ben oui, de faire triper des jeunes aussi, je trouve ça quand même cool. Là. Moi, j'aurais jamais pensé, un mois de juillet, de me dire, hey, je vais mettre la bottine souriante dans ma voiture ou d'écouter à n'importe quel autre endroit.
Puis lui, il est en train de se faire un nouveau band, là, les Caresseux de bouteilles, puis ça attire, ça me fait penser à Salbarbe. On les a vus au festival, ils ont eu du fun comme pas possible. C'est une gang de gars qui étaient connus pour la plupart, qui ont décidé en pandémie de refaire de la musique ensemble pour le fun qu'amène la musique puis le jam, une gang de personnes ensemble. Puis ça a pogné. Maintenant, ils font plein de festivals, sont remplis, sont capables de faire des scènes quand même assez grosses. Est-ce qu'on ramène ça tranquillement pas vite? Parce que là, clairement, pour Xavier, on est là. Il y a une tendance qui est là. Son prochain show, c'est le 29 août. On appelle ça « Mythes et légendes » dans le coin de Joliette. Puis il y aura aussi le 3 octobre à Saint-Félix avec son autre band. Il roule sa bosse de musique traditionnelle puis ça pogne sur les réseaux sociaux. C'est beau à voir. Il y a un petit quelque chose qui est beau à voir puis encore plus quand c'est un gars de 25 ans qui défait le mythe que c'est juste pour le temps des fêtes. Continuez de nous écrire au 418-971-1021 et surtout si vous voulez gagner votre paire de billets pour aller au Capital avec l'équipe de Boulevard parce qu'on la donne maintenant. Donc, c'est le 20 août prochain au Stade Canac. Les Capitales de Québec vont affronter les Miners du comté de Sussex. Ce sera un match aussi de Boulevard 101. Comme je vous disais, l'escouade va être sur place. Max Larouche, après ses vacances, va revenir pour faire le lancer protocolaire. J'espère qu'il va se pratiquer en Abitibi, mais bon. Deux accès dans la zone Kepler, c'est ça qu'on vous donne. C'est 3 consommations par personne, le popcorn à volonté puis une ambiance de feu pour gagner. Il s'appelle comment le gars dont on vient de parler? 418-971-1021. On a juste besoin du prénom, il n'y a pas de problème. De l'autre côté de la pause, très contente de recevoir Gabriel Martineau des Hôtels. Mathias et moi, on va aller jaser avec cette avocate en droit de la famille puis en droit de la jeunesse parce qu'il y a un nouveau cas qui est sous ordonnance de non-publication. On comprend, là, les noms ne sont pas sortis. Mais c'est un divorce entre millionnaires. Ça attire notre côté voyeur, mais aussi tout le droit qui est derrière. Il y a un juge qui a refusé d'accorder 220 millions à l'ex-épouse d'un millionnaire. C'était une guerre, on se disait, sans merci, une guérilla judiciaire qui arrive au terme. Puis on va aller jaser avec cette avocate tout de suite après cette courte pause.
Le point de Max. Ah, 102-1. 100% parlé tout l'été.
On dirait qu'ils ont ajusté les bêtes musicaux pour nous, Mathias. Hey, salut, je m'appelle Pascal, Pascal CV Mathias, Mathias Turcotte. On est avec vous jusqu'à, j'allais dire, 14h. Ben non, on a changé l'horaire aujourd'hui. Donc, on entre en onde de 10 à midi. Ensuite, Jeff Fortin est de retour. Vous l'avez entendu aussi dans l'émission du matin. Puis toute la gang du retour aussi est officiellement dans les rangs. Donc, Denis, Véro et Audrey. Et Audrey, on la recevra à 11h avec l'open mic. C'est Paul Lévesque aujourd'hui, spécialiste du comportement humain qui sera avec nous pendant la demi-heure. On a bien hâte d'y jaser, c'est toujours le fun. Puis le sujet va vous faire réagir, manquez pas Paul Lévesque tantôt à l'émission dans le point de Max. Max qui, lui, est en congé pour mieux vous revenir. À l'extérieur, c'est 21 degrés, alternance soleil-nuage pour la journée, c'est vraiment ce qu'on a. Orage violent pour cet après-midi. Ce soir et cette nuit, la nuit est fraîche, on a 14 pour laisser place au soleil avec 25 dès demain mardi. Et on n'ose pas trop se prononcer ces temps-ci parce que là, je vois 3 belles journées, là, vraiment du soleil mur à mur de mardi à jeudi, mais ça change aux 24 heures ou aux 12 heures la météo. Donc, c'est loin d'être facile de vous en faire une précise, mais aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a une nouvelle qui allie côté voyeur au côté droit et actualité aujourd'hui qui a attiré notre attention. Moi, ça me fait penser à l'ancien cas Eric et Lola. Il y a des similitudes, mais il y a des choses bien différentes aussi, où on n'a pas les noms de ces gens-là. Fait que ça, c'est un petit peu le côté voyeur, puis on ne les divulguera pas non plus. Des fois, il y a des indices dans la cause qui nous permettent d'avoir des hypothèses. Mais c'est un divorce entre millionnaires. Donc, c'est la presse aujourd'hui qui parle de ce divorce-là. C'est un juge qui a refusé d'accorder 220 millions de dollars à l'ex-épouse d'un richissime. Une guerre qu'on nomme comme étant sans merci depuis un bon bout déjà. Puis, on ne pouvait pas en parler sans une experte, et on l'a ici. Elle collabore à l'émission une fois de temps en temps. C'est Gabrielle Martineau, Desautels, avocate en droit de la famille et en droit de la jeunesse, qui était avec nous. Bonjour, Maître Desautels.
Bonjour.
Bon, en même temps, j'aurais dû dire Maître Martineau Desautels pour ne pas fâcher tes parents. Déjà qu'on parle de guerre judiciaire puis de divorce avec ce cas-là, c'est un cas quand même qui attire l'attention.
Définitivement, là, c'est pas un cas qu'on voit à tous les jours, là.
On est-tu obligé de tomber dans le côté voyeur ou on peut le trouver intéressant aussi pour les millions de dollars qui sont mis sur la table, le fait que c'est une guerre qui est sans merci, et aussi qu'on peut le rapporter, le ramener à notre quotidien, à nous, si jamais on a à se divorcer, là?
Bien, c'est sûr qu'il y a certains éléments qu'on voit dans tous les dossiers, là, des réclamations. Là, c'est sûr que dans ce cas-là, on parle de millions de dollars.
Tu vois moins ça un peu.
C'est pas tous les jours qu'on voit ça, puis c'est pas tous les dossiers qui sont comme ça, là, mais toutes les questions d'ordre, garde d'enfants, pension alimentaire, on a parlé de prestations compensatoires aussi dans ce dossier-là, parce que puis d'enrichissement injustifié. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on voit dans beaucoup de dossiers, là, à tous les jours.
Que vous jouez là-dedans les deux mains là, au quotidien. Éric et Lola, auparavant, c'était des gens qui n'étaient pas mariés.
Exact.
Là, on comprend qu'ils ont été mariés pour une partie de leur relation. Fait qu'à ce moment-là, on va pas jouer là-dedans. Eux, ils jouent encore une fois dans tout ce qui était fait avant le mariage, donc dans la portion conjointe fait. Est-ce qu'on comprend qu'en 2026, c'est toujours pas légiférer la façon dont on doit s'y prendre quand un couple éclate avec des enfants et ou avec un style de vie entre conjoints de fait?
Mais en fait, c'est légiféré. Il y a des recours qui existent. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes que pour les conjoints mariés. Dans le cas de Mona et Cédric, ce qui est particulier...
Les non-fictifs.
Les non-fictifs, exactement. C'est qu'ils ont été mariés pour une courte durée, puis ils ont été conjoints de fait au préalable. Donc, il y a certaines réclamations que Mona fait qui touchent directement là, la portion avant le mariage. Quand on parle d'enrichissement injustifié, là, quand tu parlais tout à l'heure là, de sa réclamation de 220 millions, là, ça touche la portion avant mariage.
Donc, on dit que c'est pas quelque chose qui devrait se voir dans la cause. C'est pour ça que le juge a refusé d'accorder ces 220 millions de dollars-là à l'ex-épouse. Qu'est-ce qu'elle demandait, elle, de garder un certain style de vie?
Bien, en fait, sa réclamation de 220 millions, on appelle ça une demande en enrichissement injustifié. C'est pour venir compenser l'apport exceptionnel qu'elle a fait pendant la vie commune. Elle réclamait ça par rapport aux enfants, par rapport aux résidences, puis par rapport aux compagnies aussi de monsieur. Le juge ne lui a pas rien donné. C'est juste qu'il lui a donné un montant beaucoup moins élevé que ce qu'elle réclamait. Là. Il lui a donné 650 000 au final. Là. Puis on voit dans l'article là, qu'il ventile ça pour différents éléments. Là.
Oui, on le constate absolument. Là. Puis je pense que Mathias, tu avais dit ça. C'est oui, toi qu'on a entendu, oui.
C'est que le juge finit par décider au final de dire « Ah, t'as pas droit à 220 millions, ça va seulement être... » Puis là, je le mets entre guillemets, 650 000 $ finalement. Comment on évalue ça dans le processus?
Bien, en fait, on le voit un petit peu dans l'article, là, on l'aborde. Le juge a parlé de co-entreprise familiale. Mm-hmm. Madame, elle, réclamait un montant de 220 000 en disant « ben nous, on était dans une co-entreprise familiale ». Ça, c'est un terme qui, au final, vient dire « ben c'est une méthode d'indemnisation. Il y a la co-entreprise familiale puis une autre méthode ». Donc, en co-entreprise familiale, souvent, les parties vont avoir droit un petit peu plus que dans l'autre méthode de calcul. Le juge vient dire « moi, je ne vois pas que de co-entreprise familiale ». Donc, il va vraiment là, avec la première méthode de calcul qui est très arbitraire. Donc, le juge dit « pour les enfants, je t'accorde 300 000 ». Là, je me souviens plus des chiffres exacts. Là.
C'est 350 000 pour son rôle de prépondérant auprès des enfants et des résidences pour la dame, là, pour l'épouse en question. Puis 300 000 pour ses services rendus à l'entreprise de Cédric.
C'est ça, exactement.
Donc, on dit que Mona, qui a assumé seule la charge mentale associée aux enfants et aux responsabilités domestiques pendant que Cédric était loin du foyer. Ça, ça joue beaucoup dans la cause. Est-ce que tu vois ça de plus en plus? Des femmes, par exemple, pour prendre le côté genré, qui ont assumé toute la charge mentale, puis qui réclament lorsque vient le temps de se divorcer ou de se séparer. En même temps, comment est-ce qu'on le calibre, ça, cette charge mentale-là?
Bien, c'est sûr qu'il faut que ce soit une contribution exceptionnelle. C'est comme ça que les juges le décrivent, si on veut. Il faut que ce soit une contribution qui est plus que ce que tu devrais faire normalement.
Genre quelqu'un qui est à l'extérieur constamment dans le couple, quelqu'un qui n'a pas nécessairement toute la garde, quelqu'un qui... Ça fonctionne-tu comme ça? Comment est-ce qu'on considère que c'est une exception?
Ben, en fait, par exemple, un parent qui va s'occuper de tous les rendez-vous médicaux des enfants, de tous les rendez-vous scolaires des enfants, qui va préparer les repas, qui va s'occuper de tout ce qui est gestion de la maisonnée, faire
le lavage.
Il faut
toujours bien prouver ça.
Oui, il faut toujours... Exactement. C'est une preuve qui est quand même pas facile à faire nécessairement, qui repose beaucoup sur des faits. Donc, le juge va regarder la version d'un contre la version de l'autre puis va venir déterminer qui y croit le plus, là.
Toi, quand tu gères ce type de cause-là en tant qu'avocate en droit de la famille puis en droit de la jeunesse, bon, on parlait des sommes qui sont faramineuses dans l'article, mais où est-ce que ça bogue le plus? Où est-ce que le bas blesse quand vient le temps de déterminer les sommes là, à chacun?
Ben, c'est, en fait, dans un dossier d'enrichissement injustifié comme ça, il faut vraiment regarder c'est quoi les deux éléments, les principaux éléments à regarder, c'est l'enrichissement de un versus l'appauvrissement de l'autre. Puis c'est un peu comme ça que le juge, on va venir à déterminer c'est quoi le montant auquel là, la personne va avoir droit. Là.
Mais souvent, ça vient dans l'actualité, puis on ne voyait pas ça auparavant. Comment est-ce que le paradigme a changé avec le temps?
Je pense que, puis là, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais mon avis, c'est justement avec le fait que les femmes travaillent plus maintenant versus, disons, nos grands-parents. On s'occupe plus des enfants, on est plus à la maison, tout ça, les congés de maternité, etc. Donc, il faut essayer de trouver une certaine compensation pour tout le travail que la femme, puis là, encore une fois, pour venir genrer le dossier. Là. Donc, c'est pour venir compenser un peu le travail exceptionnel qu'un parent va faire là, dans le cadre de la famille.
Dans certaines situations, des gens qui, au 88-971-1021, se sont confiés quand on arrivait à parler avec l'actualité comme ça, puis c'était pour plusieurs des pères qui avaient été en cours ou qui avaient été jugés sur le fait de devoir contribuer à la famille, même après la séparation, pour garder un certain contexte de vie, là, style de vie, façon justement de vivre pour les enfants. Donc, il avait donné des montants à la mère qui étaient surévalués pour certains qui se confiaient à certains moments et qu'eux avaient de la misère à arriver au bout du compte, au bout du mois, avec les sommes qu'ils avaient à donner à leur ex-conjointe, encore là, on genre. Est-ce que tu as vu ça souvent?
Bien, quand je dirais oui, là, c'est sûr que c'est... on parle de pension alimentaire pour les enfants. C'est sûr que c'est déterminé. Là, les tables sont faites par le gouvernement à chaque année. Tout ça, c'est déterminé en fonction du revenu des parents, des modalités de garde et tout, mais c'est certain qu'on le voit que c'est quand même des montants qui sont élevés. Puis, effectivement, là, ça peut arriver qu'il y en a qui ont de la difficulté à arriver financièrement là, au bout du mois parce qu'ils doivent payer une pension alimentaire.
Est-ce qu'on a retravaillé là-dessus à travers le temps? Est-ce qu'on devrait retravailler là-dessus à travers le temps?
En fait, pour les enfants, moi, je dirais que non, parce que c'est vraiment fait pour le bénéfice des enfants. Il faut comprendre que cet argent-là ne va pas aux parents, mais bien pour les besoins des enfants. Puis c'est pour leur permettre de garder un certain rythme de vie qui n'est pas être pénalisé du fait que les parents sont séparés.
Pour voir la même chose quand on va chez maman ou qu'on va chez papa.
Exact.
Si vous avez des questionnements ou encore vous avez des histoires à nous raconter par rapport à ça, 88-971-1021. On termine avec vous, Maître Martineau des Hôtels, sur le grand dossier qui est dans la presse aujourd'hui. Là, on a vu que ça sort un peu dans les médias. On est en ordonnance de non-publication sur les noms des parents, donc des époux, ex-époux dans ce cas-ci. On va-tu en entendre encore parler parce que ça risque de faire un peu du bruit, là, ce genre de cause-là? Là.
Bien, définitivement, surtout que là, on voit que Mona a déposé une demande à la cour d'appel. On va voir qu'est-ce que ça va donner là, dans les prochains temps.
Et on dit qu'il y a plusieurs victimes collatérales dans cette affaire-là, notamment des enfants. Ça arrive-tu souvent que dans les litiges de ce type-là, des enfants en prennent lourd?
Ah oui, ça arrive vraiment régulièrement là, où les enfants vont être instrumentalisés, puis où les parents vont perdre de vue le meilleur intérêt de leur enfant, puis ils vont se lancer dans une guerre contre l'autre parent. Là. Ça arrive trop souvent, malheureusement.
Peut-être essayer de les manipuler même des fois. Là. On peut-tu voir ça un peu?
Oui, oui, on peut voir ça, effectivement, ça arrive.
L'aliénation parentale. On vous sort du dossier pour faire ce commentaire-là, mais tu sais, dans l'article, Mathias, il était écrit... qu'après leur rupture, dans les années 2010, les hostilités ont été lancées tellement que Cédric a mis Mona en filature et c'était le début d'une décennie de litiges au cours de laquelle Cédric va adopter une conduite répréhensible, un comportement blâmable. Et ça, par contre, le juge l'a reconnu. Quand on parle de difficultés pour les enfants, je pense que dans ce genre de situation-là, ça devait être très, très éprouvant. Très éprouvant. Une guerre parentale, quand les enfants sont impliqués au jour le jour, c'est sûr que ça laisse des traces. Là.
Ah, c'est sûr et certain, là, surtout quand il y a une relation autant toxique que ça qui s'installe au point de faire suivre son ancien conjoint ou son ancienne femme dans ce cas-ci.
Là. Peut-être qu'à un moment, la personne à se fâche et elle dit là, moi, je vais aller récupérer mon dû en dommages et intérêts, par exemple. Puis malheureusement, c'est là où que ça débalance avec ce qui devrait être jugé pour la famille et dans le divorce et la séparation. Merci, Maître Gabrielle Martineau, des Hôtels, avocate en droit de la famille et en droit de la jeunesse, d'être passée en studio aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
On est dans, j'allais dire, on en jase le point de max. On revient avec Audrey Pinchot qui se ramène en studio pour l'open mic. Paul Lévesque, aussi spécialiste du comportement humain, sera avec nous. Restez là, Mathias Turcotte et moi-même, Pascal CV, on vous accompagne. Le point de max. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui attendaient son retour avec impatience, puis elle n'est pas seulement de retour dans le retour, elle est aussi de retour dans l'open mic, et ce sera ça tout l'automne. Audrey Pinchot, salut!
Salut!
T'as passé des belles vacances, je sais qu'elles étaient chargées. Là.
Elles étaient chargées, c'était une semaine qui était prévue pour des boîtes et des achats de maison.
C'est la première fois que tu avais des vacances prévues pour, mettons, de l'administratif?
Oui.
Puis parce que ça, c'est bizarre.
Oui, c'est bizarre. Parce que je peux pas appeler ça des vacances dans le sens où ça a été du 8 à 18 tous les jours, mais fallait qu'on le fasse. Fait que ça a fait du bien de faire ça, mettons, dans un bloc de semaine au lieu de le répartir à travers l'horaire du quotidien puis là, d'être comme submergé. Ouais.
Puis t'es sortie un peu, t'es allée au restaurant, t'en as profité dans les festivals.
Ouais. Je me suis... Ben ça, non, écoute, ça a été vraiment... On s'est payé un restaurant vendredi soir, ça a été le résumé de mes vacances.
C'est de la pizza qu'on a fait lire. Ah, mais je t'ai pas vue au festival ou quelque chose, aller te promener?
Non, ben je devais y aller hier, puis en vérité, ben là, le site a comme fermé.
Oui, pendant un petit bout.
Oui, puis moi, j'ai vu The Offspring, j'ai vu Angine de poitrine, puis là, je me disais, ah, j'y vas-tu, j'y vas pas, j'avais la route à faire si j'y allais. Fait qu'on dirait que je me suis comme découragée en soirée, sachant qu'on venait aujourd'hui.
Puis d'aller la veille, comme le dimanche, la veille de soir, faire de quoi, puis se coucher tard le lendemain quand tu retournes au travail.
Ben, ça embarque dans
bizarre un peu.
Oui, parce que moi, je m'étais dit, je vais aller en profiter, mettons, dès 17h. Tu sais, moi, le festival, pour moi, c'est plus que la musique. Là, moi, je vais faire les petits manèges, ouais. Je vais manger les food trucks. Mais là, ça, c'est comme la période où c'était fermé. Fait que d'y retourner juste pour 8h le soir, on dirait que ça m'allumait moins. Mais très, très heureuse, bref, d'être de retour en onde. On dirait que je suis fébrile. Je retrouve mes pantoufles cet après-midi.
Pour une dernière fois avant ton congé de maternité, en
ouais,
plus.
Oui, ça, c'est bizarre, pour vrai. J'ai comme déjà, on dirait, une espèce de pff, j'en appelle ça de la nostalgie, là, mais je trouve ça particulier parce qu'on a tout un peu ça en dedans, je pense, ah oui. L'espèce de fibre workaholic. On ne fait pas cette job-là pour rien. On est passionné de ça. Fait que de déjà entrevoir qu'en décembre, ben, je quitte pour un an, ça, je trouve ça vraiment spécial.
C'est vrai que le parallèle que je peux faire, c'est cette semaine. Moi, c'est ma dernière semaine à Boulevard 102.1.
Oui.
Après ça, c'est un choix que j'ai fait là, de quitter. Je m'en vais à mon compte pour la prochaine année. Mais c'est ma première fois en 15 ans que ma saison... de
ouais,
radio n'existe
termine.
Pas
ouais.
À un micro. Parce que ouais. Ça fait 15 ans que ceci est mon micro, voici mon équipe, puis on
ouais.
Avance.
C'est
là,
clair.
Là, je suis ma boss et ma personne pour les prochains ouais. Mois. Fait que je comprends un peu ton... Hein.
Ouais,
c'est un choix que j'ai choisi, c'est un choix que tu as fait aussi.
Absolument.
T'es super contente.
Ben mais... oui, c'est positif au mais final, oui. Mais il y a quelque chose de déstabilisant dans tout ça.
Et là, pour l'open mic, tu nous as ramené quelqu'un qu'on est super content
oui.
D'avoir en studio.
À Boulevard, il y a un moment où on prend le temps d'écouter, le temps de comprendre. C'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot. Un espace pour les vraies histoires, les vraies questions, les vraies émotions. Un rendez-vous incontournable de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Puis là, c'est vraiment un bonheur parce que c'est un vol que j'ai fait. un vol. Je veux dire, je reprends ce qui était déjà nôtre. Paul Lévesque, qui est spécialiste du comportement humain, vous la connaissez, vous l'aimez tellement, Boulevard. Puis Paul s'est promené dans l'horaire dans les dernières années parce que initialement, ben, elle était dans l'open mic quand je faisais l'open mic avec Yann Marceau. Bon, Yann, après ça, a pris le matin, fait que tout ça comme un peu bougé. On a mis ça dans le retour. Puis là, on se disait dans les derniers mois, crime, c'est comme si on n'était pas capable d'aller chercher assez de ce qu'on voulait de Paul parce que dans le retour, nos temps sont plus limités. Tandis que dans l'open mic, on a littéralement 20 à une demi-heure, on prend le temps qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Fait que j'ai dit à Paul, ça te tente-tu de revenir? Puis de revenir tous les lundis où on jase de ce qu'on a envie. Si vous avez des suggestions, 88-971-1021, elles sont toujours les bienvenues, évidemment. Fait que c'est vraiment un bonheur pour moi de recommencer cette saison radio-là, en plus, avec Paul en onde.
Écoute, je commence avec vous cette nouvelle saison, ce nouvel élan.
Oui!
Mais... Puis je m'en venais dans l'ascenseur, puis je me disais, moi, je pense que ce que j'aime le plus au monde, c'est être en amour avec les humains. Mm-hmm. Puis là, on va avoir le temps d'être avec nos humains qu'on aime.
Oui.
Puis ben écoute, je vous aime tous. Vous avez tous vos particularités. Puis c'est toujours un défi de se coller à la philosophie de ce retour vers l'émission du matin.
Oui, absolument.
On n'écoute pas de la même façon.
Mais non, c'est pas les mêmes conversations.
C'est pas les mêmes conversations.
On a notre petit café, souvent le troisième. Là, on a ouvert nos affaires au bureau, on a clenché une coupe d'affaires. Puis là, on entend Paul, on arrête, on prend un peu de temps.
Il y a aussi un peu du fait que, tu sais, je fais l'open mic avec Max Larouche maintenant, puis je trouvais qu'il y avait besoin de thérapie. Fait que je me suis dit...
Chaque lundi.
Commencer les semaines avec ça, ça va peut-être être bon éventuellement.
On a commencé cet été dans le retour.
Oui,
bon, on voit qu'on a quand même du chemin à faire. Mais il y a de l'espoir.
Vous auriez dû entendre sa finalité tantôt parce qu'il a parlé. Là. Il y a encore du chemin à faire, oui.
On va l'avoir à l'usure. Aujourd'hui, on se concentre sur les couples. Puis je pense que ça va même plus loin que si vous l'êtes actuellement, dans le sens où c'est un problème généralisé de savoir se parler pour vrai. Puis la grande question, c'est pourquoi c'est autant difficile? Tu sais, on dirait que quand tu commences à voir quelqu'un, généralement, je sais pas pourquoi, la champlure est bien ouverte, t'as des discussions, tu parles de tout, de rien. Tu sais, les deep talks jusqu'à 3 heures du matin,
t'es vulnérable, tu te laisses aller, puis mon Dieu, la connexion est magnifique. Ouais. Puis là, tu dis, wow, j'ai rencontré mon âme sœur parce que c'est donc bien facile avec cette personne-là.
Et là, tu tombes en relation, la vie commence, les choses deviennent sérieuses, puis on dirait que pour une raison ou une autre, la communication devient des fois un peu plus difficile.
Mais t'es en chicane des fois.
Mais ça arrive.
C'est ça la différence avec
c'est
le début.
C'est un peu poche.
Oui, puis tu sais, quand tu commences une relation, t'as l'impression que ça va être comme dans un film. Hein? Tu sais, les films où tout va bien jusqu'au moment où ça va plus, mais ils trouvent les mots puis la façon de faire, puis le bon angle pour être capable de jaser. Mais il y a aussi le temps qui court. Puis vous avez raison. Puis aujourd'hui, j'ai décidé... Je m'excuse, je vais quitter un peu mon micro parce que j'ai passé.
On devrait essayer de passer derrière, mais depuis qu'elle a son ventre de maman enceinte, ça passe
moins bien. Elle fait débarquer du banc, elle passe avec sa petite mini-bédaine. Je suis
capable de passer subtilement, on dirait.
Non,
là,
c'est ça. Là, il faut passer avant. Là. Il y a une question de logistique de bédaine ici qui est encore petite. J'ai décidé de faire le top 3 de pourquoi c'est si difficile. Commençons par ça.
Okay, avec le temps, pourquoi c'est si difficile de parler avec son conjoint, sa conjointe?
Le top 3 de pourquoi, mais on va jaser plus que ça, mais pourquoi c'est si difficile avec le temps? Pourquoi on finit par ne plus avoir autre chose que passe-moi le sel, passe-moi de poivre, de faire de l'évitement parce que tu sais que ça va peut-être virer mal. Tu sais, tu fais de l'évitement aussi.
C'est vrai.
Puis on a l'impression qu'une vraie discussion, il faut nécessairement que ça soit se dire les affaires plates. Bon, pourquoi le top 3? Bien, avant, j'ai envie de vous proposer... Est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous un élément qui pourrait être dans mon top?
Ben,
pourquoi
la routine,
c'est si difficile?
Ça va vite. Maintenant, on prend moins de temps de qualité. Là, c'est la vie, puis on essaie d'avoir une conversation, elle va vite.
L'appréhension, je dirais. Tu sais, t'apprends à connaître l'autre personne, tu connais ses traits de caractère, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des discussions qui te paraissent un peu moins faciles à avoir. T'entrevois, t'appréhendes une réaction?
De mon côté, je dirais peut-être le manque de nouveauté, tu sais, peu importe ta situation, la personne t'arrive, puis des fois tu te dis, tu sais déjà ce qu'elle va te dire. Il n'y a pas de quoi de nouveau. Peu importe le sujet, elle va dire la même affaire qu'elle a dit la veille.
Deux personnes qui tombent à retraite en même temps puis qui vivent les mêmes journées.
Oui, non, c'est ça, exact.
Ben, vous avez trois bonnes réponses qui se fusionnent dans ce que je vais vous proposer parce que dessous, il y a ça. Le premier top 3, pourquoi c'est si difficile? On ne parle pas seulement du problème, on parle des blessures. Bon, là, je vois qu'il y a un grand silence dans le studio.
Ah, oui. On est à l'écoute.
Vous êtes surpris ou déçus, je ne sais pas. Ben, parce que plus on s'approche de quelqu'un, plus on est soi-même. Plus on est soi-même avec tout ce qu'on est. Hmm. Nos bons coups, puis nos blessures. Donc, quand on a à se parler pour vrai, souvent, on a comme idée de parler de quelque chose de précis, mais en cours de discussion, c'est les blessures qui ressortent. C'est-à-dire que comme on est beaucoup dans l'intimité, on est capable d'aller plus loin dans nos propos, on connaît plus la personne, et puis souvent, ben, on va aller peser sur des boutons qui vont déranger l'autre et qui vont au-delà de la conversation. Donc, on va se mettre à se protéger ou à se défendre.
Ah, c'est ça, les systèmes de défense. Est-ce que les gens sont conscients quand leur système de défense entre en ligne de compte? Parce que du vécu, là, mettons, ma réponse personnelle, ça serait non. Puis ce serait même, c'est challengeant quand l'autre, avec la bienveillance du monde, essaie de dire « Hey, t'es en train de te défendre, mais je t'attaque pas, on est un couple, tu sais. Je veux juste ton bien. » C'est juste qu'en ce moment, ton système de défense nous empêche d'avancer la communication.
Mais ça, tu vois, c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Pour souffrir... Puis c'est pour ça que tous les lundis, là, ouvrez votre radio, parce qu'on va faire de l'extra-lucidité.
Oh oui, on creuse.
Non, mais juste voir les affaires qu'on voyait pas, puis c'est un peu ça. Puis, sais-tu quoi? Plus tu as de l'information sur une personne, plus tu peux lui faire du bien, mais plus tu peux lui faire du mal. Mmh. Puis des fois, sans le vouloir, mettons que tu es en train de discuter, puis quelqu'un est en train de dire des choses qui te dérangent, ben tu vas avoir peut-être le réflexe de dire « t'es bien comme ta mère ». Mais juste... Non, mais tu comprends que c'est très anodin, mais si ta mère, pour toi, c'est la référence négative...
Ça déclenche autre chose.
Ça vient de déclencher une blessure, tu comprends? C'est pour ça que des fois, il y a des choses anodines, mais tu le sais! Tu l'utilises parce que tu le sais, mais tu ne sais pas tout ce que ça va déclencher. Mais tu veux la déranger comme l'autre te dérange. Fait que ça, c'est une des premières raisons pourquoi on a de la misère à se parler. C'est clair pour ça?
Absolument.
OK. Le deuxième, c'est on n'écoute pas pour répondre. On n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre.
Ça, c'est pas la première fois que je l'entends, puis c'est vrai. Puis j'ai l'impression que c'est un peu relié au numéro un, dans la mesure où aussitôt que tu te sens le moindrement attaqué, bien là, t'es plus dans l'envie de compréhension, t'es plus dans l'envie de régler quelque chose.
Ni l'ouverture.
Non, t'es dans l'envie justement d'attaquer un peu comme t'expliquais, puis j'ai vraiment le sentiment que c'est là que ça vient jouer.
Défendre ton point.
Ouais,
oui,
vraiment.
Exact.
T'argumentes, là.
Il faut que tu gagnes, puis où je m'en suis aperçue, c'est que lorsque je fais de la consultation privée, puis que c'est des couples, parfois, ils disent « C'est la première fois que tu me dis ça. » Oui, mais tu me laisses pas aller jusqu'au bout. Comment ça que tu m'as jamais dit ça? Oui, mais tu me... Puis je reprends souvent ce que Patrick Huard disait il y a longtemps. Je ne sais pas si Mathias, ça va avoir du sens pour toi. Mais dans un truc qu'il faisait, il disait « Ferme ta gueule ». Mais on devrait toujours avoir ça en tête. Puis hey, aujourd'hui, ça fait 41 ans que je suis mariée.
Aujourd'hui
même.
Pour vrai, wow, félicitations.
Je me suis mariée très, très, très jeune, très, 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 très jeune, pour pas que vous calculiez pour les radios 70 ans. Non, mais c'est vrai, on s'est mariée
très,
très
jeune.
Mais ça tient.
Oui, puis je vous le jure, là, que ça, j'ai appris ça en 41 ans. Ferme ta gueule. Parce que moi, j'ai une grande gueule. Non, mais je veux dire, moi, je... je suis dans l'argumentaire, puis je suis bonne dans l'argumentaire. Mais écoute l'autre jusqu'au bout. Parce que si tu ne laisses pas aller jusqu'au bout, à moins qu'il te manque de respect, puis tu dois réajuster, là. Mais parce que tu vas avoir de l'information qui va venir compléter ce qui te ferait allumer. Puis avez-vous remarqué quand on reçoit des courriels? Moi, des fois, je me laisse 48 heures parce que quand je leur lis après 48 heures, je me dis, voyons, c'est pas ça qui était écrit.
Oui. Mais sur le coup, tu es sensible,
tu comprends.
T'es émotif, tu le lis d'une façon. En plus, les mots par écrit, c'est pas la même chose que d'avoir la personne devant soi.
Fait que, écoutez. Troisième, on croit connaître l'autre et on arrête de vérifier. Ah, toi, je te connais. Toi, je te connais
depuis
toujours.
T'es de même.
T'es de même.
Ça m'énerve.
Mais on évolue. Et puis, on part du principe que lorsqu'on parle, que la personne qui est devant nous est la même qu'il y a 2 ans, 3 mois. On évolue. Fait qu'on pense connaître l'autre, puis on arrête d'aller vérifier si ce qu'on dit, si ce qu'on fait, si ce qu'on est, ça correspond aux besoins de l'autre.
Mais ça doit être difficile dans une situation où... puis il y a beaucoup de profils comme ça. Il y a des gens qui sont évitants face à une conversation qui est difficile parce que ça fait mal et où on n'est pas habile à converser, à avoir de la communication. Si l'autre personne a de la misère à se voir ici et maintenant dans une conversation, puis que ça devient lourd pour cette personne-là d'être en train de discuter de quelque chose de difficile, comment est-ce que cette personne-là peut ne pas se refermer? Parce que ça peut faire plus de dommages de se refermer puis de se débattre que d'avoir une conversation ouverte.
Le truc, là, puis on en a parlé cet été, justement, mais... Puis j'ai sorti aussi le top 3 des 3 trucs. Je me dis, tu sais, la vie va tellement vite. Quand on a fini notre chronique ensemble, faut pas que les gens se disent « Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Comment je m'y prends? Par quel bout je prends ça? » Tu sais, il faut que ça soit décortiqué et vulgarisé.
Il nous faut un sac à outils, là, ça, c'est ça.
Mais, puis qui part de quelque chose d'intelligent puis qui est vulgarisé, mais... Là, je le dis, je le redis, je vais le redire, je pense, jusqu'à la fin des temps. Si tu es sur le mode reproche, tu as 96... Écoute, j'ai sorti la statistique, OK? Le mode accusation et reproche, si tu commences par ce mode-là, tu as 96 % de chances que ça finisse mal. OK? Hmm. Fait que des fois, tu dis... Puis moi, je donne
mais
tout
c'est
le temps,
quoi ton approche si tu as un reproche à faire?
Il faut pas t'en faire. Il faut que tu le formules sous... Il faut pas que ça soit formulé sous forme de reproche.
Je
t'as
me
pas
sens...
de pouvoir sur les autres. T'en as que sur toi. Ben, il y a plusieurs formules.
J'ai l'impression.
Ben, non, mais... En fait, il y a plusieurs formules. Mais dis-toi, pour être capable d'être ailleurs que sur le mode reproche, ben là, je pourrais te sortir le Dieu, bon. Mais tu sais, je veux qu'on aille ailleurs. C'est si ça te fait du bien à toi et à l'autre, t'es pas sur le mode reproche. Si ça te fait du bien qu'à toi, t'es sur le mode reproche. Mmh. J'ai dit en tabarnak, ça m'a fait du bien. Ben, probablement que ça t'a fait du bien, mais pas à l'autre. Donc, si tu veux avoir une possibilité que l'autre soit pas en protection ou en défense, pour répondre à Pascal, ben, il faut que ça fasse... Il faut que le ton, les mots et la façon dont tu t'y prends et où tu as du seul pouvoir, c'est sur toi, c'est... Ce que je vais dire, puis la façon que je vais le dire, ça va me faire du bien parce que j'ai besoin de le dire, mais ça va faire du bien à l'autre. C'est-à-dire que l'autre va être capable de l'accueillir.
Mais j'entends ici, là, OK, mais même quand je change de stratégie, la personne elle reste prise avec le fait que j'ai été dans les reproches à un moment ou à un autre dans notre relation puis dans nos discussions. Fait qu'il n'y a rien qui ressort. La personne est juste bloquée, puis je ne suis pas capable de la débloquer. Parce
t'as
que...
beau mettre toutes les stratégies
j'ai la bienveillance, puis je veux son bien, puis je veux pas être en bataille.
Ça m'est déjà arrivé,
marche pas.
J'avais dit à mon interlocuteur, hey, là, pour vrai, je vais utiliser tous les trucs de ma psy, je ne sais plus quoi faire.
Puis ça a donné quoi?
Ben, ça n'a pas donné grand-chose.
La personne se ferme quand même. Comment est-ce qu'on fait sortir?
Le temps, t'sais? C'est ça. Ça a pris 24 heures, je te dirais.
Ben, je te dirais que la meilleure façon d'être déçu, c'est d'être en attente par rapport à l'autre. Soit plutôt en attente par rapport
ça,
à toi.
Surtout quand t'es en couple, je veux dire, les attentes, elles sont hautes, c'est sûr, c'est ton partenaire.
Si c'était facile, j'aurais pas de job. Je ne ferais pas cette job-là depuis tant d'années.
Mais j'ai vu des couples se séparer, puis ça me fait beaucoup de peine parce que je voyais que les deux personnes s'aimaient, avaient les mêmes valeurs, étaient complémentaires.
Mais ils ne savaient pas se parler.
Mais ils n'étaient pas capables de se parler. Ah, puis il y a une des deux personnes qui voulait donc bien que ça fonctionne pour vrai, mettait les actions en place, puis l'autre disait vouloir les mettre en place, mais était incapable par sa lacune dans la communication. C'est vraiment une personne qui... chaque fois qu'on amenait quelque chose de difficile sur la table, se refermait, système de défense, je veux pas aller là.
Ah, puis des fois, ça vient du passé.
Sais-tu quoi? Ce que tu dis, ce que vous dites, c'est la vraie vie. Et on sait que dans des relations, puis on pourrait dire, on parle des couples, mais on pourrait parler de l'amitié, on pourrait parler familial, bon, etc. Mais parlons des couples, on appelle ça des problèmes insolubles. Tu sais, quand tu mets du sel dans l'eau, là, puis à un moment donné, t'as beau brasser, ça se dissout pas. Donc, tu peux être confronté un jour ou l'autre à avoir essayé tout ce que tu connaissais ou presque. Il y a des gens qui vont consulter. Tu sais, il y en a qui mettent le paquet, qui disent « Moi, pauvre, je suis allée au bout de tout ce que je pouvais. » Donc, ça devient un problème insoluble. Et un problème insoluble, ça veut dire accepter. Accepter veut dire... Là, je te parle pas de violence, je te parle pas de trucs toxiques. Là. Je te parle de problématiques qu'on peut rencontrer dans le couple en général.
C'était les différences. Ouais.
Prenons comme exemple, OK? Prenons comme exemple quelqu'un qui a une libido très différente. Mm. OK? Ça se peut que ça reste toute la vie, là. T'auras beau acheter des jouets, t'auras beau essayer tout ce que toutes les huiles à massage qui existent avec toutes les saveurs et les... Ça se peut que la libido soit très différente d'une personne à l'autre. Et c'est là que tu dois te poser la question. Parce que tu dis, pas, j'ai tout essayé. Le problème insoluble, c'est que vous aurez toujours une distinction au niveau de la libido. Ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est est-ce que tout le reste en vaut la peine? Mm. Est-ce que tout ce que je vis avec l'autre personne vaut la peine que je ne sois pas au même niveau que l'autre au niveau de la libido?
Il faut que tu arrêtes de le mettre sur la table aussi, probablement. Là.
C'est là que ça arrive. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu es dans l'acceptation, encore une fois, je ne parle pas de choses toxiques, là, OK? Mais quand tu es dans l'acceptation de dire, ben écoute, j'accepte puis je vais faire une compensation, bon, c'est pas d'aller voir ailleurs, mais en tout cas, je vais... je vais compenser par plus de gestes affectueux ou je ne sais pas trop. Ben la tension et la pression tombent et surprenamment, dans la moitié des cas, ça s'améliore.
Mm. Je ne sais pas si mon exemple va en être un bon, là, mais j'essaie d'imaginer un peu ce que tu dis. Là. Tu vois, moi, le seul pépin là, que je peux voir dans ma relation là, quand on est dans des modes discussion, c'est que mon amoureux est quelqu'un qui a besoin de recul.
Oui.
Et moi, je règle maintenant.
Ah oui.
Moi, il ne faut pas s'attraîner. Ah, moi, oui. Laisse-moi pas me coucher fâchée, moi, le traîner 3 jours. T'sais, faut, moi, c'est maintenant. Quand il arrive une situation, je me sens assez prête émotionnellement pour être capable de distinguer exactement ce que je ressens, exactement ce que j'ai à dire, c'est là. Puis lui a vraiment besoin de ce recul-là, puis j'ai l'impression que ça peut peut-être être un exemple qui...
Très bon exemple.
Qui colle avec ce que tu dis dans la mesure
où... Ça sera
où...
toujours ça. Ça veut oui. pas dire qu'on peut pas se retrouver un petit peu plus au centre à un moment donné. Mais connaître le mode d'emploi de l'autre, exact. C'est offrir une possibilité de l'atteindre. Mmh. Je recommence. C'est important, là.
Ouais.
OK? Si tu comprends le mode d'emploi de l'autre, il faut que tu commences par le reconnaître et l'accepter.
Le respecter.
Le respecter et de se dire qu'on n'est pas des clones de nous-mêmes en couple. Mm. Et à partir de ce moment-là, je suis capable de m'ajuster. Ça veut dire qu'il y a des soirs où tu vas avoir besoin de le dire, mais tu sais que ça ne donnera rien de bon. Mm. Donc, tu vas travailler à être capable de moduler, puis tu vas être capable de lui dire, quand lui sera sorti de la caverne, parce que c'est un caverneux, dire, ben écoute, une prochaine fois, comment on peut faire? Parce que moi, j'ai trouvé ça difficile de t'attendre, mais je comprends qu'il faut t'attendre. Donc, tu comprends? Tu t'en parles dans un contexte où il y a beaucoup moins de frustration.
De tension.
Puis on avance.
Mais il y a des gens qui, mettons dans le contexte que Audrey vient de nous énumérer, vont se trouver pénalisés beaucoup en disant « Hey, moi, j'attends toujours. » je fais ça pour le bien de notre couple, je me mets un peu de côté, gère mes émotions pendant que j'attends que l'autre sorte de sa caverne, mais à un moment, j'aimerais ça qu'il fasse un pas vers moi aussi, puis qu'il soit capable de me rassurer là-dedans pour que la période d'attente soit pas difficile, soit pas trop émotive.
Faut pas que ça dure 3 jours non plus, là.
Y a-tu moyen de faire un pas
suite,
vers l'autre?
C'est la loi du 48 heures, hein?
C'est 48, je pensais que c'était 24, hein, c'est rough, c'est 48.
Ben non, mais selon les études, la loi du 48 heures veut dire que ça prend entre 0 et 48 heures pour que le pouvoir réactionnel redescende. Les caverneux qui viennent sur le bord de la caverne, les réactionnels qui scamment le pompon. Parce que ça aussi, hein, si j'ai envie de le régler tout de suite, je suis peut-être réactionnel. Peut-être c'est bon que j'attende un peu. Tu comprends?
C'est vrai. Ça, c'est vrai, par exemple.
Non, mais c'est vrai, certain. Puis peut-être que, non, mais peut-être que le caverneux va sortir plus vite de sa caverne si je suis moins flamboyante au niveau émotif. C'est là que tu finis par... faire des compromis.
Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tu te croises en chemin. Le caverneux se calme pendant que le réactionnel, lui, se craigne parce que ça fait 48 heures qu'il attend puis qu'il a le temps de réfléchir puis d'en mettre encore plus sur la table.
Bien, moi, je pense que non.
Ah ouais, OK.
Non, moi, je pense que ça te donne le temps de te déposer parce que si tu es impulsif, si tu es réactionnel, ça dépend. Si tu es dans la vengeance, c'est sûr, ça te donne du temps pour te venger puis je pense pas que c'est une bonne émotion. Mais, tu sais, on évolue. Et en évoluant, on apprend à s'ajuster. Moi, je pense que s'ajuster veut dire se comprendre, se respecter, mais aussi atteindre son objectif. Si tu veux être vimeux dans la vie, tu veux atteindre ton objectif. OK? Là, tu connais le mode d'emploi de l'autre. Des fois, les autres disent « Il m'énerve. Je sais qu'il va me dire ça. Je sais qu'il va faire ça. » Mais je dis « Waouh, tu le sais. »
Mais c'est ça qui est le fun, c'est ça.
Non, mais ouais. Au lieu que ça te fasse chier, peux-tu t'en servir intelligemment, tu comprends? Moi, je suis mariée avec un caverneux. Ben, vous me voyez l'allure, là? Vous me voyez, là.
Tu l'es pas,
oui. Ben là, moi, je suis plutôt flamboyante émotivement, là, tu comprends? Fait que, mais lui, il a appris à être plus pétillant, puis moi, j'ai appris à me calmer le pompon un peu. Mais je sais que j'atteins mieux mes objectifs. Puis là, il m'écoute en ce moment, en plus. On atteint mieux nos objectifs en se respectant. Donc, ce que je lui dis maintenant... Puis, en passant, l'humour, on l'utilise pas assez. Là. Je te parle pas de l'un de l'autre.
C'est la force. Dans notre couple, là, c'est notre façon de s'en sortir.
Une vitamine, là. Hey! C'est au lieu de faire du drama, là. Tu sais, moi, souvent, j'ai dit, bon, je t'attends sur le bord de la caverne. Je suis pas loin. Regarde, coucou. J'ai très hâte que tu sortes de ta caverne, mais je respecte que tu es dedans. Tu sais... Il me trouve drôle. Puis là, ça désamorce. Puis là, il vient me rejoindre plus vite. Tu comprends? Ouais. Puis des fois, je vais juste passer à côté. Coucou, je suis à côté de la porte de la caverne. Je suis juste là. Hey, je te laisse tranquille, mais je suis juste... Tu sais, c'est sûr que si tu le fais avec ironie puis que tu rentres avec une espèce de désir...
D'attitude.
Oui, mais je crois qu'on n'utilise pas assez l'humour dédramatisé. Et c'est là que sert la loi du 48 heures. Va te calmer le pompon, parce que quand t'as le pompon qui gigote, ça fait rien de bon.
Mais en même temps, il ne faut pas que l'humour devienne un mécanisme de défense non plus.
Pour être dans le déni,
ouais, c'est
là.
Ça. Ben, ouais. Ou mettons, quelqu'un essaye d'avoir une conversation sérieuse avec l'un avec ouais. l'autre, puis l'autre va juste faire exact. Des blagues pour éviter la conversation sérieuse.
Ou jamais revenir à discuter du sujet que vous avez mis de côté pendant 48 heures. Ouais. Moi, je pense que ça, là, c'est un des défis colossaux pour quelqu'un qui est dans sa caverne, mais essentiel.
Là, vous dites beaucoup de choses. Là, une chance qu'on a du temps. Bon, Mathias, ce que tu dis est extrêmement vrai. On a fait, dans le retour, vous irez voir la chronique, sur les techniques réactionnelles. Mmh. Et il y a une technique réactionnelle qui s'appelle le singe, c'est-à-dire être constamment dans l'humour grossier, exagéré, pour dévier. Donc, c'est vrai que ça peut être une technique réactionnelle. C'est tout à fait vrai. Et c'est vrai ce que tu dis, Pascal, que récupérer la situation, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire, on l'a échappé, on n'a pas été tout à fait bon, j'ai pas... Parce que c'est pas comme dans un film, là. Après avoir écouté la chronique, vous ferez pas « Ah, je vais suivre à la lettre ce que Paul dit, puis je vais être tellement bon. » Mais c'est en pratiquant qu'on vient bon. Mm-hmm. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu as un risque. Avoir une conversation, c'est prendre un risque. Être dans le silence, c'est être sûr que ça marchera pas.
Tu peux-tu comprendre?
Même si t'es pas bon, là.
Peux-tu mettre un warning avant une conversation? Je m'explique. Hey, je vais probablement être super maladroite. Je sais pas trop comment t'approcher avec ça. Ça me travaille depuis une couple de jours. Voici mon plateau de marde. Y a-tu comme une façon de, tu sais, de tempérer? J'ai pas envie que ça dégénère. Si t'es pas prêt à l'entendre, tu sais, comprends-tu ce que je veux dire?
C'est là que j'utiliserais l'humour. C'est là que j'utiliserais l'humour pour répondre à Mathias aussi. C'est là que j'utiliserais l'humour, c'est-à-dire, écoute, ça se peut que je sois pas bonne. Mais je le fais par amour. Je t'aime à folie. Puis sais-tu quoi? Ça se peut que je sois vraiment comme de la crème fouettée qui l'a échappé, là, puis quand tu vas en avoir partout. Mais je te dis que j'ai une bonne intention. Mais
généralement, c'est les moments où je suis plus en amour avec mon chum. Parce que mon chum, il, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, puis il vient pas d'une éducation où ils ont parlé beaucoup de leurs émotions. Mais quand il fait comme, bon, je serai pas bon.
Oui, je vais essayer.
Mais j'essaie.
Ah, tu deviens...
Je suis tellement ouverte.
Oui!
Wow!
Ah, puis ça, là, c'est tellement une bonne technique, Audrey. Nommer notre vulnérabilité rend l'autre protecteur.
Mais oui!
Ben, pour vrai,
puis
là!
Tu le prends avec des pincettes, puis là, en moins, tu te sens comme ça, puis là, tu t'en vas plus loin. Attention, puis là, oui, j'aurais pas dû. Mais je trouve ça beau, là.
Oui, pour fermer l'huître,
là. Oui, moi, je pense que ça, c'est une très bonne technique.
Mais il faut du courage, parce que chez moi, ça y demande du courage. Fait que si ça arrive, il faut que je sois toute là.
Mais ça se travaille tellement, tu sais. Moi, ça me fait rire
quand
parce
les gens
que...
veulent.
Oui, effectivement.
J'ai déjà connu d'autres gens, c'était plus difficile.
Oui, mais tu sais, je vais... Tu sais, je vais me prendre comme exemple parce que c'est le seul que j'ai vite comme ça. Mais tu sais, moi, je sais que mon chum m'a dit récemment, « Ben oui, mais toi, t'es bonne là-dedans. »
Oui!
Oui, ouais, attends une minute, je suis bonne, recul de 4 ans. Tu sais, je veux dire, ça se pratique.
Puis t'as des émotions pareilles quand ça vient difficile. Là.
Oui, puis tu sais, je pense que c'est à force de le faire puis de nommer, des fois maladroitement, des fois tu te mets les pieds dans les plats.
Oui,
des fois,
oui.
Mais c'est à force de le faire qu'à un moment donné, tu viens comme à l'aise de... C'est parce que c'est de respecter puis mettre tes limites aussi.
Absolument.
D'être capable de bien t'exprimer
absolument.
Par rapport à quelqu'un.
Oui, puis moi, je pense que l'humilité et l'authenticité, c'est extrêmement charismatique.
Oui.
Ça désamorce l'autre. Tu sais, quand tu es authentique, puis tu montes, tu assumes ta vulnérabilité.
Tes erreurs. Tes systèmes de défense.
Hey, moi, puis prenez juste, là, je vais aller complètement ailleurs. Vous allez au resto, ta pizza arrive, elle brûle et raide, OK? Tu dis à la personne qui a apporté ton assiette... c'est brûlé, là, je peux pas manger ça. Ben là, écoutez, là, ce petit coin-là est pas si brûlé, puis là, arrête. Moi, c'est sûr, là, qu'elle vient de déclencher mon système de défense, qui est très, très, très bon. Mais si elle montre une vulnérabilité, puis qu'elle dit, ben, c'est vrai qu'elle est noire, on va assumer le fait qu'elle est noire, ben, une fois sur deux, je vais peut-être dire, ben, écoute, c'est vrai qu'il y a des petits bouts qui sont pas si pires. C'est pas grave.
Donc, tu te dis, une façon de le
montre ta vulnérabilité. Là, montre pas ta vulnérabilité à quelqu'un qui va être violent puis qui va le réutiliser, mais tu sais, juste montrer que, ben tu veux puis tu sais pas trop comment.
Une fois que t'avoues, là, ça t'humanise.
Oui, absolument.
J'ai envie de terminer, Paul, en te demandant, pour les couples là, qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis que
de
je veux
moins
dire...
en moins, là.
Non, mais tu sais, c'est forgé, là. Je veux dire, les façons de communiquer sont bien ancrées, ce sont des fossiles, là. Comment t'arrives à changer ça? Parce que j'ai l'impression que des fois... Il y a aussi un reproche naturel qui embarque de « fait 30 ans qu'on est ensemble, tu me connais, t'es censé savoir comment je vais réagir, t'es censé savoir, on vient qu'on prend pour acquis certains comportements aussi. Fait comment tu défais ce moule-là quand ça fait super longtemps?
On appelle ça des dynamiques. Je veux vous dire qu'il y a des dynamiques qui peuvent être cristallisées même après 3 ans. Là. Ben oui, il y a des dynamiques qui sont cristallisées. Là. C'est la croûte des poignets après ça. J'ai envie de vous donner les 3 trucs essentiels pour ne pas croûter ou pour décroûter la patente.
C'est bon, ça. C'est bien okay.
Non, non, mais tu sais, tu grattes le vernis. OK. Le premier, parle de toi. Parle pas de l'autre. Moi, quand je suis en consultation, que ça fasse 2 ans, 20 ans, 30 ans, oui, mais lui, parle-moi pas de l'autre, parle de toi. Tu sais, quand t'es en discussion avec l'autre, parle pas de l'autre. Ben toi, tu fais ça. Parle de toi. OK? Premier truc, parle de toi. Pour amorcer une bonne dynamique ou pour décrouter la dynamique. L'autre élément...
Ça a-tu une fin, Paul, ça, par exemple? Excuse, je t'interromps, mais y a-tu une limite? Y a tellement de... Vous avez certainement vu ça, mais des séries, des sketchs sur le « je me moi, je me sens, j'ai l'impression je... » à quel point ça fait justement thérapie, puis c'est risible à un certain point. Y a-t-il une limite à ça?
Bien là, en fait, je vous dis pas d'être narcissique. Ce que je vous dis, c'est quand vous déposez la problématique, parlez de la problématique, mais en partant de vous.
De ton point de vue.
C'est plus ça. Tu sais, l'angle de toi, ça veut pas dire « parle de toi pendant 30 minutes », là, on n'est pas au confessionnal. Donc, l'autre élément, c'est « cherche à comprendre, pas à convaincre ». On remarque qu'on essaye tellement de convaincre l'autre, essaye juste de comprendre. Je te dis, enlève-toi là. Puis même si ça fait longtemps, essaye de comprendre. Tu vas peut-être voir des affaires après tant de temps que tu n'as jamais vues.
Moi, j'ai souvent dit, essaie pas de t'expliquer. C'est correct. Les comportements ont été faits, les mots ont été dits. C'est là. Comment est-ce qu'on peut passer à la prochaine étape?
Exact.
Comment est-ce qu'on peut s'aider et trouver des outils pour pas refaire? C'est fait.
Oui.
Quand même que tu m'expliques que c'est à cause de ça, puis je t'ai fait chier, puis je sais pas.
Oui, ouais, on est ailleurs, là.
Ça vaut rien. C'est fait, c'est derrière.
On appelle ça la mitraillette, hein? Ça, j'aime pas ça, puis ce que t'as fait il y a 2 mois, puis ce que t'as fait il y a 6 mois, puis ce que t'as fait il y a 1 an, puis tu sais, la mitraillette, ça donne rien de bon. Et là, ça a l'air de rien, là, mais choisir le bon timing, là. Là, tu vas dire, oui, mais Paul, c'est là que ça s'est déclenché. Créer un moment calme. Si tu veux perdre le contrôle, sois dans un environnement qui est buzzé. Donc, le calme attire le calme. Et quand tu as devant toi quelqu'un qui va monter, puis si ça fait 30 ans qu'il y a une dynamique d'escalade, si l'autre monte, travaille-toi à rester en bas, l'autre, il va être désarçonné. Le bonheur, c'est d'amener un élément nouveau. Tu sais, de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, essaye quelque chose de nouveau. Einstein a dit, la folie, c'est de refaire toujours la même chose en pensant que le dénouement sera différent.
Ouais.
Donc, essayez. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, puis vous le jetterez à la poubelle si vous voulez, essayez quelque chose de nouveau.
Quelque chose de nouveau.
Que vous n'avez jamais fait.
Mais sur vous, en plus.
Oui, oui.
Comment vous pouvez changer la donne et non l'autre devant?
Y a ça d'autres... va avoir un impact, que tu le veuilles ou pas.
Ça va avoir un impact, c'est sûr. Puis c'est là que réside le pouvoir. De l'influence. C'est-à-dire que tu as juste de l'influence sur l'autre. Ça se peut qu'il passe 30 ans à être comme ça. Mais si tu changes quelque chose sur toi, tu vas changer la dynamique et tu risques d'atteindre l'autre. Ça, c'est officiel.
Amen. Demande pas à ton pays ce que tu peux faire, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays.
Hey, oui, c'est bon.
Amen. Paul Lévesque.
Ma petite mini-conclusion.
Oui.
On a-tu 2 secondes?
Ben oui, mais oui.
Se parler vraiment, c'est pas de trouver les mots parfaits, c'est oser dire une vérité imparfaite.
J'aime ça. J'espère que ça va avoir aidé du monde, honnêtement. 88-971-1021. Paul qui sera avec nous tous les lundis dans l'open mic cette saison-ci. Oui. Je suis vraiment excitée. Merci d'avoir embarqué.
Oui, puis d'autant plus que je pars pour 3 semaines. 3 semaines de vacances.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça va faire là, bien,
non, mais j'ai arrangé ça aujourd'hui parce que j'étais en congé à cause de mon anniversaire de mariage. On s'était donné la journée. C'est pour ça que mon chum m'écoute, il est en bas dans l'auto. On part en galère. Mais je voulais être avec vous autres parce que je vous aime profondément. Puis pour vrai, là, puis je me disais, je veux lancer la saison. Je suis 3 semaines absente. C'est pas parce qu'ils vont m'avoir flushé. C'est parce que je vais être en vacances puis je vous reviens.
Fait qu'on se retrouve dans 1 mois officiellement.
Oui. C'est
faites l'amour, là.
Oui, profites-en. Communiquez, parlez-vous. Oui.
Dites-moi plutôt pour le faisant pas trop, parce que moi, j'ai le bonheur facile.
Mais en même temps, vous vous complétez parfaitement. Paul Lévesque, qui est spécialiste du comportement humain, la question aujourd'hui, c'est en couple, se parler vraiment, pourquoi c'est si difficile. Vous allez retrouver ça sur le blvd.fr.
Merci pour tout. Merci, Paul. Puis merci, Audrey. On te retrouve demain 11h pour l'open mic, mais cet après-midi aussi,
14h.
Tu retrouves tes collègues, Jenny puis Véro.
Le point de match. We'll be right back.
Vous êtes dans le Point de Max pour cette dernière partie de l'émission. Puis on est un peu sur les chapeaux de roue parce que là, on se démêle avec la saison qui recommence, avec l'été qui est en train de finir. Mon nom, c'est Pascal CV. Son nom, c'est Mathias Turcotte et on est avec vous jusqu'à midi. Ensuite, c'est On en jase. Jeff Fortin est de retour. Mathias reste avec Jeff. Puis nous, on se retrouve sinon le matin. Mais surtout, manquez pas Denis Gravel, Audrey Pinchot et Véronique Bergeron tantôt dans le retour. Avant de vous laisser puis de conclure cette émission, là, dans le Point de Max, il y a un article qui était fort intéressant aujourd'hui dans la presse. C'est un article qui nous parle de Longueuil. D'accord, on est à Longueuil pour l'article, mais on va ramener ça à ici. Parce qu'on disait que l'an dernier, 20 % des personnes arrêtées pour crimes violents, c'était des mineurs. On commence à en parler fortement. Moi, je me rappelle de cette image-là d'un jeune qui a été brûlé puis abattu du côté de la Beauce. Puis on se rendait compte qu'à travers les heures, il y aurait probablement une personne mineure qui serait dans l'actualité. Le plus ça avançait, c'était pas juste mineur, c'était 14 ans pour la criminalité que le jeune avait décidé de mettre dans sa vie. Puis ça a fini qu'il a été brûlé. Puis c'est épouvantable. Mais le service de police à Longueuil compte parmi ses rangs maintenant des intervenantes qui œuvrent auprès des jeunes à risque de sombrer dans la délinquance. Et ça, ça pourrait faire la différence. Quand on dit qu'on peut parler avec des gens en amont là, pour certaines situations, bien ça, ça risque d'en être une forte et belle conversation qu'on va avoir avec la sergente Pion-Rivard. Elle a participé à la mise en place du groupe qu'on appelle Tact Longueuil. Elle est au bout du fil. Bonjour, sergente Pion-Rivard.
Bonjour.
On a quelques minutes avec vous pour parler de cette initiative-là. Est-ce que vous êtes basé sur quelque chose ou vous l'avez monté de A à Z?
Ça a été monté de A à Z. C'est sûr qu'on s'est basé sur les meilleures pratiques, là, tu sais, puis la littérature. Mais oui, ça a été monté de A à Z.
Comment est-ce qu'on est venu à se dire on fait ça puis on le fait de cette manière-là?
Bien, en fait, ça a été monté d'une certaine façon. Donc, déjà, on avait déjà prédéterminé les intervenantes pivots qui étaient parmi notre équipe, la conseillère clinique, nos agents du renseignement qui étaient avec nous. Puis, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire en concertation avec les partenaires, un peu de voir les angles morts, qu'est-ce qui n'existait pas. Mm-hmm. Puis, vous l'avez bien dit, de travailler la délinquance, mais en amont, quand on est au début d'une trajectoire délinquante. C'est là qu'on jugeait que l'intervention était la plus appropriée.
Ouais. C'est quoi les angles morts qu'on échappe peut-être là, dans divers corps policiers ou encore auprès de la jeunesse qui pourrait tomber dans la délinquance?
Oui. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est que nos partenaires, hein, on est vraiment proche du milieu scolaire. Moi, je suis à la prévention aussi, fait que les agents qui sont dans les écoles, nos partenaires aussi, qui, bon, que ce soit les maisons de jeunes... souvent vont soulever des fois quelques petites inquiétudes. Il va y avoir comme peut-être un début d'agir délictueux, mais pas assez pour qu'il y ait une plainte ou pour que quelqu'un s'en préoccupe de façon là, tu sais, outre mesure. Puis quand ces craintes-là ou ces éléments-là sont portés à nos oreilles, que ça soit, comme je l'ai dit, par des partenaires, sur des comités ou que ça soit même un membre de la famille, des amis, ben là, à ce moment-là, quand on est en début de trajectoire, on peut intervenir avec les intervenantes. Puis les interventions aussi, il faut comprendre qu'elles sont confidentielles. On n'intervient pas en diable, c'est-à-dire que c'est pas un policier puis une intervenante ensemble. C'est l'intervenante seule. Ben au départ, là, à moins qu'elle sollicite notre aide par la suite, mais ouais, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est un peu là. Parce que quand l'adolescent commet un crime, puis il y a une plainte, bien là, il va avoir l'intervention des patrouilleurs. Mais je dis pas qu'on s'en occupe pas. Après ça, le patrouilleur peut nous soumettre le rapport. Nous, on peut intervenir, mais c'est sûr que c'est plus facile parce que c'est plus visible, c'est rapporté, c'est de la criminalité rapportée. Mais avant, souvent, il se passe des petites actions où il y a des petits trucs qui se passent dans la vie du jeune qui, ça, des fois, ça passe un peu plus inaperçu.
Et c'est là qu'il faut travailler. Vous avez une équipe terrain, on offre un accompagnement volontaire aux jeunes de 12 à 17 ans. Quand on arrive auprès de la porte avant des comportements délinquants, on n'est pas toujours volontaire de participer à ce genre d'entraide-là. Comment est-ce que vous les convainquez?
Ben non, c'est sûr. Effectivement, on n'est pas tout le temps volontaire, mais tu sais, faut faire confiance aux intervenantes qui sont vraiment outillées pour travailler le volontariat. Tu sais, je veux dire, des fois, on va juste tendre la main, on va donner notre contact, on va faire une petite rencontre, puis après ça, ben on laisse ça mûrir sur. On laisse ça mûrir quelques jours, puis des fois, oups, il arrive quelque chose, puis là, ben vu que le contact, le lien de confiance était déjà fait. ben là, c'est plus facile après ça d'intervenir. Oui, des fois, du premier coup, ça fonctionne. Hein. Faut aussi penser que les jeunes aussi, je veux dire, faut donner des bonnes intentions là, tu sais, aux jeunes. La plupart des jeunes sont responsables, ils réalisent qu'ils ont posé des gestes qui étaient inappropriés ou inacceptables. Fait que la plupart du temps, le volontariat fonctionne. Quand ça fonctionne pas, ben il faut juste espérer qu'on va avoir tendu une perche. Ouais.
Et selon ce que je disais, il y a quand même une attitude aux intervenantes ou aux intervenants pour créer un lien de proximité avec des jeunes. Je voyais que certaines intervenantes disaient hey, « on va aller prendre une crème glacée, on va aller au McDo ouais. ensemble ». C'est pas nécessairement, sont pas nécessairement pris dans un bureau, dans un milieu scolaire, par exemple.
Exact. Ça favorise vraiment les discussions. T'sais, on se met un peu au niveau du jeune, on essaie de... Puis en même temps, ben il y en a qui ont vécu aussi des mauvaises expériences, tu sais, faut pas se le cacher, faut pas le nier. Fait que des fois, ils ont un regard peut-être plus négatif aussi de la police face aux interventions policières. Fait qu'on essaie de déconstruire ça en même temps. Fait qu'en offrant des espaces un peu plus neutres, c'est beaucoup plus facile de créer le lien de confiance. Ouais.
Sergent de Pion-Rivard, dans cette initiative-là qui est d'encadrer les jeunes avant de mettre un pied dans la criminalité pour la majorité, est-ce que vous êtes plus présent dans les corridors d'école? Est-ce que vous avez une ligne directe? Est-ce que vous avez des conversations ouais. avec certains jeunes qui vous amènent à comprendre comment ça se passe dans les corridors? Parce que ce qu'on entend au sein de la criminalité dans la jeunesse, c'est que ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis ça se passe auprès de jeunes qui sont dans de super bonnes familles, qui n'ont pas nécessairement de problème ou quoi que ce soit, mais qui ont une envie de l'appât du gain, de l'argent. Puis ça, on s'en va les recruter là. Donc, on est un peu dans une autre façon de faire dans le crime, quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Ouais. Comment est-ce qu'on se tient au courant?
Ouais. Bien, mon Dieu, on pourrait en parler longtemps, ça me passionne. ben en fait, comment qu'on se prend? Oui, on a des très bons partenaires. Hein, je le redis, j'ai toujours le. On fait vraiment, on collabore vraiment avec les partenaires, que ce soit du milieu scolaire, que ce soit les maisons de jeunes, que ce soit les organismes communautaires sur notre territoire. Fait qu'on a accès à des très belles formations. On a la chance de travailler avec des spécialistes, des criminologues aussi renommés. Fait qu'on se tient au courant. Les jeunes nous parlent, oui, comme je disais tantôt, on est vraiment à proximité. Même les bureaux des intervenantes sont à proximité des bureaux des intervenantes, en fait, des préventionnistes qui travaillent en milieu scolaire. Fait que, oui, on a le pouls terrain, que ça soit des jeunes ou des intervenants. Fait qu'on est un peu, puis en même temps, ben comme je vous dis, les formations, les comités, on est pas mal au courant de ce qui se passe. On est, fait que, oui. Puis en même temps, ben, je veux dire, les partenaires aussi, là, comme je vous dis, ils nous demandent d'agir, ils nous demandent d'intervenir dans certaines situations. Fait qu'ils ne veulent pas, en étant proche du milieu scolaire, on ne peut pas être plus près de la réalité. Là.
Donc, vous êtes plus, comment dire, les mains dedans que moi, quand j'étais au secondaire, puis qu'il y avait des policiers-écoles qui faisaient de la surveillance, oui. mais qui ne nous parlaient pas nécessairement, à moins qu'il y ait une plainte ou que quelqu'un ait cogné au bureau des policiers?
Je pense pas. Je pense à quoi un petit peu j'ai mal compris. Mais oui, nous, on est dans les écoles, les intervenants, les préventionnistes sont en milieu scolaire. Mais ce que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est qu'on fait des activités en collaboration avec les préventionnistes du milieu scolaire. Fait que des fois, on va faire des midis ateliers, des quiz, questions-réponses. Les jeunes aiment ça, des fois, répondre à des questions. On donne des petits prix. Des fois, ils ont des questions qu'ils désirent poser soit aux intervenantes, aux policières. Fait qu'on est là pour faire des kiosques, on fait des présences, des visibilités en milieu scolaire. Fait que ça, c'est une façon d'aller chercher l'information, mais aussi de se faire connaître auprès des jeunes.
Comment est-ce que, et ce sera ma dernière question pour vous, sergente Pion-Rivard, comment est-ce qu'on garde notre entité de policière dans ce cas-ci, mais qu'on est aussi très ouverte à ce que les jeunes nous amènent comme information? Parce que si vous entendez des choses qui sont accusatoires ou on doit mener une enquête, ça peut peut-être briser le lien avec le jeune pour les confidences, mais en même temps, c'est une affaire publique?
C'est une très bonne question. Mais j'aurais envie de dire que la transparence, c'est très important, que ce soit au niveau des intervenantes ou des préventionnistes. Puis les jeunes l'apprécient. Pour vrai, quand on met une limite claire au début de l'intervention, on le dit. Puis les intervenants aussi le sont tenus, oui, ont la confidentialité, mais si jamais le jeune est en danger ou met quelqu'un d'autre en danger, ils ont le devoir de nous transmettre l'information, puis on va devoir agir. Mais en mettant carte sur table au départ, puis en étant très transparent avec eux, ils le comprennent, puis même qu'ils l'apprécient. Fait qu'on leur dit, si tu as commis une infraction, ben il va avoir des conséquences. De toute façon, c'est ça le but aussi de groupe contact, des interventions, c'est de responsabiliser les jeunes face à leur action. Il y a pas de cachette, il y a pas de secret. Moi, personnellement, je pense que ça se vit très bien, mais ça prend de la transparence, puis ça prend de l'information. Tu sais, la base de la prévention, c'est l'éducation, l'information. Fait que si on n'a pas l'information en premier, savoir, mettons, ce que j'ai le droit de faire ou non. Quand j'ai 12 ans, je suis majeure, donc je suis responsable au niveau de la loi. Bien, après ça, quand je sais que j'ai pas le droit de faire certaines actions, bien, c'est clair, net et précis. Fait que si je prends sur la ligne, il va en avoir des conséquences. Mais il va y avoir de l'accompagnement en même temps.
Oui, ça doit être difficile de faire, l'intervention auprès du jeune en ouvrant le canal de communication, en le gardant sain, en défaisant ce qui est affaire publique, puis un petit peu criminel parfois, puis aussi en faisant contact avec les parents. Toute une initiative du groupe Contact Longueuil, c'est une intéressante alternative pour essayer de jaser avec les jeunes en amont, avant qu'ils mettent le pied dans la criminalité. Merci, ouais. Sergente Pion-Rivard, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci.
On reprendra des nouvelles un peu plus tard, le temps que l'année scolaire commence. C'est un plaisir.
Oui, au revoir.
Au revoir. L'an dernier, on apprenait que 20 % des personnes arrêtées pour crimes violents, c'était des mineurs. Donc, le corps de police de Longueuil a essayé de faire en sorte de mettre parmi les rangs maintenant des intervenantes qui œuvrent auprès des jeunes qui sont à risque de sombrer dans la délinquance, à suivre comment ça va se manifester sur le terrain.
Le Point de Max. Le Point de Max. 100% parlé. Tout l'été. 102-1.
Et Mathias, pour cette dernière portion de l'émission, on va aller faire un tour des nouvelles. Il y en a quelques-unes, mais c'est une journée quand même assez relaxe. Tout le monde revient de la construction, on dirait. La politique, c'est pas commencé. La campagne, ça s'en vient. On se repose. Les gens ont encore les deux pieds sur le pouf ou les deux mains dans le lavage.
C'est très tranquille, mais il y a de quoi de gros qui est sorti, qui est tombé ce matin. Des agents de bord et WestJet qui ont finalement trouvé une entente de principe qui met fin justement à la grève qui avait été entamée hier, qui avait mené à l'annulation de plusieurs centaines de vols. Donc, les activités de la compagnie aérienne WestJet qui reprennent tranquillement, pas vite. Au cours des prochains jours, les agents de bord qui devront voter justement cette fameuse entente de principe-là, à savoir s'ils l'acceptent ou encore s'ils la refusent. Si jamais ils la refusent, ça ne veut pas dire qu'on retombe en grève nécessairement. Il y a certaines choses qui peuvent être prévues dans l'entente pour éviter ça. Mais en gros, ce qu'on nous dit, c'est que les agents de bord vont obtenir davantage de crédits de vol avec cette nouvelle entente-là.
Et Marc Ranger, spécialiste en affaires syndicales, est avec nous ce matin et parlait que le fédéral doit bouger là-dedans. On doit avoir des règles plus claires.
Moi, je pense qu'il y a quand même des leçons à tirer. C'est au fédéral d'imposer des critères parce que de toute façon, ces quelques joueurs-là vont tous être sur un même pied d'égalité à partir du moment que tu fais des règles. Mm-hmm. Mais là, actuellement, là, c'est toujours, toujours, toujours le passager qui paye le prix, qui arrive à l'aéroport puis qui n'est pas capable d'avoir du service, pas capable d'avoir de réponse. En 2026, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse.
Le réseau de transport de la capitale qui a annoncé mettre en place des navettes pour le festival Cigale qui s'en vient le 7 au 9 août prochain.
Excellente idée.
Ce qui va être mis en place, c'est à partir du vendredi. Donc, le vendredi à 18h30, c'est des navettes qui vont partir du centre-ville de Charlebourg et de Beauport pour se diriger directement vers justement la baie de Beauport. Le samedi et dimanche, c'est à partir de 14h45 que les navettes circuleront, et ça jusqu'à 00h30 pour ramener les festivaliers par la suite. Donc, très bonne nouvelle de ce côté-là. Donald Trump a annoncé aujourd'hui reprendre les négociations avec l'Iran. Il a suspendu des bombardements américains qui étaient prévus cette nuit pour justement rouvrir la discussion à propos du détroit d'Ormuz. Le pétrole qui a d'ailleurs chuté de 5 % environ depuis cette annonce-là. Mais ça bouge beaucoup dans le secteur là, avec Trump qui négocierait avec l'Iran. Du côté de Téhéran, on continue de nier. Puis pendant ce temps-là, Téhéran négocie avec l'Oman pour justement avoir une emprise sur le détroit d'Ormuz au complet.
Ce matin, Luc, la Liberté, chroniqueur en politique américaine, disait que presque officiellement, Trump aurait perdu le contrôle. Du moins, c'était son analyse.
Ce que ça laisse comme impression, et je crois que c'est le cas dans les faits, c'est que Donald Trump a perdu le contrôle de ce conflit-là, ou à tout le moins, il ne peut pas imposer ni son narratif, ni ses actions. On l'a souligné à plusieurs reprises, les Américains sont nettement plus forts, personne n'en doute, que l'Iran. La question n'est pas là. On a un potentiel militaire, on a de l'armement, on a tout multiplié par 10 et plus face à l'Iran. L'Iran est un pays qui est acculé au mur. C'est un pays qui, malheureusement, souffre, mais qui utilise cette souffrance-là ou qui est prêt à souffrir dans ces négociations. Et pour que les Américains puissent parvenir à leur fin, il leur faudrait dépenser encore beaucoup plus d'argent, mais surtout s'investir beaucoup plus en missiles, en munitions et en personnel sur le terrain.
Et ça, ça passera pas auprès des Américains. Alors, Donald Trump, il est vraiment dans une situation où l'eau est plus que chaude.
C'est maintenant l'heure des bilans avec les vacances de la construction qui sont terminées. Au total, c'est 18 personnes qui ont perdu la vie sur les routes. On parle de 6 motocyclistes. Dans tous les accidents, dans les 15 collisions qui ont mené à ces 18 morts-là, selon les enquêtes, il y aurait une cause humaine dans chacun de ces accidents-là. Et c'est 9 personnes qui sont mortes noyées à travers le Québec durant ces 2 semaines-là également. Et je termine avec une secousse, un séisme qui a eu lieu dans la région de Québec
hier.
Mais
oui, avez-vous senti ça? Beauport, Charlebourg, ce serait les endroits où vous l'avez le plus senti. Moi, je pensais que c'était un coup de tonnerre.
Coin
de Saint-Augustin-Cap-Rouge.
Tu l'as senti un
j'étais
peu?
J'étais où l'épicentre à 20h34, donc oui. Hier soir. Je t'avouerais que j'étais couchée avec nos horaires ces temps-ci, bien que j'ai aucune minutes de sommeil dans mon corps aujourd'hui. Là. Ça, c'est quelque chose que je m'explique pas. Là.
C'est le séisme qui t'a brassé.
Peut-être.
Ça t'a déstabilisé.
Oui, c'est la première fois de ma vie que je ne dormais pas une seule minute. Mais j'ai senti ça comme un coup de tonnerre. Je pensais vraiment qu'on avait un orage.
Bien, ça se peut que vous avez senti cet orage-là, entre guillemets, vous aussi. Si jamais vous êtes dans Val-Bélair, Charlebourg, Beauport, Limoineau et même du côté de Lévis qu'on l'a senti un peu, ce fameux séisme de 2.8-là. C'est quand même rare là, dans la région de Québec qu'on a des séismes, bien que ça ne soit pas énorme, 2.8. Mais...
Il y a des gens qui parlaient des fenêtres qui ont vibré, qui l'ont senti dans les murs, puis ça m'a rappelé le séisme qu'on a eu au Japon la semaine dernière. On en parlait, on était à 7 et quelques sur l'échelle de Richter.
7.1, oui.
7.1 sur 10. Hey, quand même, là. Puis ça veut dire qu'il y a des gens qui risquent d'alourdir le bilan aussi, là, du côté du Japon pendant un bout. Je vérifiais si c'était bien sur 10, là, mais c'est sur 10.
Puis l'échelle, qu'est-ce qui est
intéressant? C'est rien, là, 2.
Ben, c'est rien, puis l'échelle de Richter est exponentielle. Donc, la différence entre 2 et 7, c'est pas même que 7 et 9. En tout cas, pour vous dire, 7.1, c'est vraiment plus gros que 2.8. Fait qu'on a quand même été chanceux, là. Aucun dommage en raison du séisme.
Mais vous l'avez peut-être senti. Hey, on se retrouve demain matin à 6h avec Jeff Fortin et Alex Laramée. Toi, tu restes, par exemple, avec Jeff Fortin pour
deux
jase.
Heures de plus.
Qui vous recevez ce midi?
Je sors le plan juste ici. François Larochelle, qui est ancien diplomate au Moyen-Orient, justement, pour nous parler de la situation avec l'Iran et des négociations.
À 13h05. 13h, ça, c'est vraiment mon genre d'entrevue. Je serai de la partie à vous écouter. Et au retour, Denis Gravel va être prêt avec son équipe. Il a hâte d'en faire venir en onde depuis 2 semaines. Salut tout le monde, à demain.
Restez là.